Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This town is more than any man could ask for. And if I were to end up here, I would consider myself lucky. But the truth is, I'm just not ready to end up anywhere.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Est-ce que vous vous portez comme des charmes?
Oh ouais, ça va bien.
C'est quoi comme des charmes? Personne ne sait autour de cette table.
Et toi, ça va bien?
Bon, comme un charme.
Eh ben voilà.
Ouais, oui, tu vois. Aujourd'hui, nous recevons autour de cette table Amy LTR. Comment vas-tu?
Comme un charme.
Ouais. Tu sais ce que ça veut dire ou pas?
Oui.
Ah oui? Alors?
J'aimerais tellement te le dire, mais d'accord, je suis sous contrat de confidentialité.
Personne ne sait ce que veut dire un charme. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas?
Oui. Alors, je m'appelle Amy. Je fais beaucoup de choses, beaucoup trop, sauf dormir. Je suis vidéaste de base sur YouTube et en fait, je suis plutôt scénariste et comédienne. Voilà, je fais du court-métrage sur la toile du web. C'est un véritable plaisir. Et je suis également auteur. J'essaye d'écrire sur du papier qui reste du papier en ce moment.
Très bien. Au moment où nous enregistrons ce podcast, nous sommes en novembre, c'est l'automne, alors nous allons nous pencher aujourd'hui sur un film très automnal, à savoir Big Fish. Film sorti en 2003, réalisé par Tim Burton avec Evan McGregor, Jessica Lange, Marion Cotillard, Helena Bonham Carter ou encore Danny DeVito. Film entrecoupé de plusieurs flashbacks dans lesquels on suit la vie fantastique et souvent fantasmée d'un homme sur le point de mourir. Big Fish est librement inspiré d'un roman écrit par Daniel Wallace et a obtenu plusieurs nominations aux Golden Globes et aux Oscars sans recevoir au final de prix. Tim Burton est celui qui résume le mieux ce film lorsqu'il dit « Big Fish traite de ce qui est réel et de ce qui est imaginaire, de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est en partie vrai et de quelle manière, à la fin, tout devient vrai. » Alors je me tourne vers vous, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast. Quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Amy.
Est-ce que j'ai le droit de tricher? Parce que j'ai entendu ton podcast, je me suis un peu renseignée tout à l'heure, je me suis dit, merde, je me souviens plus de la première fois. Par contre, j'ai la fois la plus marquante, qui est pas forcément très joyeux, mais qui va prendre tout son sens avec cette histoire. La première fois, je sais que je l'ai vue plus tard que prévu, alors que je suis une grande fan de Burton pourtant. Mais alors attention, on sort pas les violons, mais voilà. J'étais très très proche de mon grand-père, très très proche de lui, et il est tombé dans le coma, il y a 5 ans. Et quand il est tombé dans le coma, j'ai foncé à l'hôpital avec mon père pour lui parler. Et c'est vrai que c'est une scène un peu particulière, les gens dans le coma, parce que ils sont là sans être là. C'est vraiment la croyance de chacun. Est-ce qu'il m'entend? Moi, je savais qu'il m'entendait. Je savais qu'il était là. Et je savais qu'il m'attendait aussi. Et je suis arrivée. C'est vrai qu'autour de moi, tout s'est un peu effondré. Les gens avaient du mal à tenir le coup. Je me demande pas comment c'est possible, mais moi, je me suis assise à côté de lui. Et j'avais l'impression que c'était OK, tu vois. Et je lui ai raconté ma journée. Me demande pas pourquoi j'ai fait ça, mais je lui ai raconté ma journée. Et c'était juste avant que je lance YouTube. Vraiment juste avant, tu vois. Et je me suis pris à, en fait, lui déballer un peu mes problèmes du moment, mes problèmes d'ambition. Qu'est-ce que je vais faire de ma life? Et je lui ai dit, je pense que je vais faire ça, papy, ça va être cool. Et il y a une larme qui a coulé, qui sont souvent des réflexes, en fait, des personnes liées au coma. Mais moi, je sais qu'il a été ému parce que je lui ai dit ça. Et il s'est dit, ma petite fille a trouvé sa voie. Et je suis rentrée. Et à l'époque, je vivais avec mon ancien conjoint et dans ces situations-là, enfin, l'humain, il n'est pas formaté pour vivre des expériences si traumatisantes ou dans le choc. Du coup, on a tous des réflexes un peu étranges. Et mon premier réflexe a été de laver tout l'appartement à l'éponge. Vraiment, j'ai lavé tout l'appartement à l'éponge. J'étais toute seule et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, je me suis dit, en fait, faut que je regarde Big Fish. Faut que je regarde Big Fish parce que
toute que t'avais déjà vu ou
que j'avais déjà vu, ouais, mais j'avais un souvenir un peu abstrait de ce film. Et je me suis dit, OK. Et puis, faut dire qu'Albert Finney ressemble à mon papy, tu vois. Et je me suis dit, il sera un peu avec moi. Et en fait, ça a conditionné tout parce que depuis que je suis petite, j'écris des histoires. Mon grand-père m'a raconté, ma grand-mère m'a raconté, mon père m'a raconté. Et j'ai fini le film. J'ai récuré l'appart, hein, t'aurais pu vraiment lécher le sol. Et il est parti le matin. Et j'ai lancé ma chaîne à ce moment-là. Je me suis dit, je sais que c'est là. Et en fait, depuis, Big Fish a une importance pour moi qui est un point de départ plutôt qu'une fin. Et c'était hyper important parce qu'en plus, il y a plein de... Je trouve que c'est un film à citation, en plus, Big Fish. Vachement, tu vois, il y a plein de messages hyper cool, et notamment celui de ne jamais laisser tomber. Et c'est tout ce que je retiens, et c'est vraiment le souvenir le plus marquant, et c'est pour ça que j'ai tant d'affect envers ce film.
Alors merci Amy, parce que maintenant nos souvenirs à nous vont être plus nuls.
C'est ce que j'ai dire juste après, parce que je vais être là. Moi ouais, je l'ai vu en DVD.
Pardon, putain, je fais que de la merde depuis tout à l'heure. Je suis à côté de la plage.
Mais c'est une belle histoire.
Non, mais c'est une belle histoire. Faut savoir que par message, quand je t'ai proposé de venir dans ce podcast, je t'ai proposé tu m'as proposé plusieurs films. Et on a choisi Big Fish. Tu me disais que c'était un de tes films préférés, donc maintenant je sais pourquoi.
Ouais. Voilà. Bon, je vais pas te le dire avant.
Bah oui, mais t'as eu raison. Mais très, très belle histoire. Toi, Guillaume, ton premier souvenir, Yassine.
Alors, j'ai pas le souvenir précis de la première fois. Mais, je l'ai vu en DVD, il me semble. Et puis, j'avais trouvé ça cool. Après, j'étais pas non plus, je suis pas hyper sensible à tout ça. Pour moi, c'était un conte de fées mignon, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Et j'ai dû le revoir plus tard. Et je trouve ça un bon film, mais genre, c'est pas il fait pas partie de mon panthéon des films que je préfère. J'ai cassé l'ambiance.
Mais oui, à fond là.
Me dire
complètement. Incroyable.
C'était une très belle histoire juste avant là.
Tu vas laver l'éponge maintenant.
Tu préfères mon histoire à celle du
voilà,
film.
Voilà, je préfère cette histoire au film. En fait.
C'est vrai.
Aurélien, toi.
Eh bien, moi, je me souviens l'avoir vu au cinéma et en fait, je trouve que l'histoire est intéressante parce que en fait, déjà, je pense que c'est le dernier film de Tim Burton que j'ai vraiment kiffé. Et j'aime bien parce que justement il n'y a pas tous les trucs un peu trop gothique horreur de Tim Burton que j'arrive plus trop à apprécier maintenant, tu vois. Là je trouve que justement c'est une bonne histoire et tu sens que il a voulu te la raconter pour que ça dure dans le temps, tu vois. Et en fait, je pense que la première fois je l'ai vu, je me suis dit ah, c'est cool. Et en fait, c'est plutôt les autres fois où je l'ai revu après que je me suis dit à chaque fois que c'était une bonne histoire et que c'était bien raconté en fait. Tu vois pas trop la patte de Tim Burton dedans. Surtout c'est vachement bien joué. Voilà de ce que je m'en souviens.
Bah moi, figurez-vous que je l'ai vu pour la première fois il y a 2 semaines seulement. Ah bah voilà. Et en l'ayant vu, je partage un peu l'avis de Guillaume. Et surtout, je pense que j'aurais préféré le voir lorsque j'avais 15-16 ans.
Ouais.
Et je pense que je l'aurais plus apprécié à 15-16 ans parce que c'est un film rempli d'optimisme. Et quand on a 15-16 ans, c'est comme ça la période où on a besoin de cet optimisme-là. Mais surtout, là, en le voyant, je me suis mis... j'ai trouvé que c'était un film qui collait bien avec l'ambiance du moment, parce que je me suis mis à la place d'un parent, et dans l'époque dans laquelle on vit en ce moment, je trouve que c'est un bon film à montrer à des enfants, Big Fish. Mm-hmm. Parce que dans ce film, on voit finalement un type qui raconte à son enfant plein d'histoires qui lui sont arrivées, mais qui enjolive les histoires à chaque fois pour rendre le monde meilleur. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, les histoires de Covid, Black Lives Matter, ce monde triste dans lequel on vit actuellement, je trouve que c'est bien de le rendre un peu plus beau, et je pense que si j'étais parent aujourd'hui, je m'inspirerais de Big Fish pour raconter des histoires à mes enfants pour qu'ils...
Tu m'en tirais sur ta vie, quoi.
Non, mais
c'est ça qu'il fait, globalement.
Attention, toi.
Pas tout.
Attention.
Mais les choses sont vraies.
Mais non, mais j'ai
grandi d'un coup à l'église en un jour.
Non, mais j'ai trouvé.
Tu crois en rien aussi.
T'es cynique, hein. Il est cynique. Qu'est-ce que t'es fade.
C'est un beau film.
Mais non, mais j'ai trouvé que c'était un beau conte, et surtout, ça m'a fait penser à un truc, et ça va être ma question suivante. Je trouve que c'est le genre de film parfait à regarder quand tu déprimes. Tu sais, quand t'as plein de mauvaises nouvelles ou quoi, tu regardes
le
ce
plaid.
Film. Et tu regardes ça, et puis, tu vois, ça t'enlève un peu des problèmes que tu vis au quotidien et tout. Et du coup, ma question, c'est, qu'est-ce que vous regardez, vous, quand vous êtes vraiment déprimé? Vous êtes dans un mauvais mood comme ça, et vous avez besoin de regarder un film qui...
Ça commence très bien.
Qui vous met dans la bonne... Amy a lancé le ton de ce podcast.
C'est de ma faute.
Qui devait être très drôle à la base. Voilà. À la base, on devait se taper des barres. Mais, Amy, le genre de film que tu regardes quand t'es déprimé?
Big Fish?
Attends.
Non, mais c'est vrai que
tu laves très souvent ton appartement à fond.
Mais je suis un peu maniaque, en vérité. Hein. C'est un vrai truc chez moi. Ouais. On dirait pas avec les poils de chien que j'ai sur le pull, mais en vérité aussi. Si j'ai une petite sélection, après ça dépend du mood. Si j'ai un tempérament de vengeance, j'irai plus vers des trucs à la 300. Parce que voilà, faut qu'il paye. Mais sinon, non, j'ai un film que je regarde très souvent et qui me fait vraiment du bien, c'est La vie rêvée de Walter Mitty.
Ah oui, très bien sûr.
Je suis très très fan.
Encore un conte un peu bon, mais. Non, il est bien.
Il me fait chier celui-là.
Non, il est bien.
Il m'emmerde. Écoute, écoute, en même temps, t'as pris une nana qui vit dans un monde qui n'existe pas. Pour moi, vous êtes tous posés sur des bulles. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire.
Je veux juste te dire.
Non, mais ça, ce film-là, pour le coup, je trouve qu'il a un vrai pouvoir. Et je l'ai testé. Hein. Attention, c'est approuvé. Je l'ai envoyé à des potes qui allaient pas bien et ils m'ont aussi dit, waouh, ouais, c'était trop bien, ça m'a fait du bien. Ouais. Du coup, désolé. Mais celui-là, c'est vrai, tu peux rien dire.
Non, mais il est très bien. Bravo.
Guillaume.
Je suis très rarement déprimé, hein, globalement, mais.
Alors, juste pour préciser, alors, on va pas aller dans les détails. Mais on a un groupe de conversation avec Guillaume.
Un groupe à deux, du coup?
Non, on est quatre dedans.
Ah oui,
on a plusieurs groupes.
Oui, d'accord.
Et un de ces groupes, hier, j'ai envoyé une vidéo très déprimante.
Oh là 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 là.
Hein, une des plus déprimantes que t'as vu.
Ah bah, tu vois, bah, après, j'ai regardé Seinfeld, par exemple.
Voilà, t'as regardé Seinfeld, et surtout, dans cette conversation, t'as dit, j'ai envie de regarder un Disney maintenant.
Ouais, exactement.
Bah, voilà. Bon, alors, quel film tu regardes quand t'es déprimé pour te mettre un peu dans une meilleure ambiance?
Dans une meilleure ambiance, je pense que je repartirais sur mes bases, tu sais, sur les films où, genre sur les premiers Vendames et tout, tu vois.
Ah,
je me dis bon bah voilà, tu sais, il y a pas de morale, quoi, c'est juste on se tabasse, c'est cool. Ça dure 1h20, pour va se coucher, merci, bye bye. Non, tu vois, un truc comme ça. Et en ce moment, sur tes conseils d'ailleurs, je regarde la série de Joe Pera.
Ouais.
Et comme tu le disais juste sur Big Fish, je pense que c'est vraiment le truc dont on a besoin en ce moment.
Exactement.
Vraiment, trop beau.
C'est quoi ça?
C'est hyper beau.
Joe Pera, j'en avais parlé sur Insta il y a quelques mois. Est-ce que du coup tu peux nous en parler?
Non, mais
là,
tu t'en avais parlé dans ton top de l'année dernière.
Ah oui, c'est vrai, dans mon top.
Ouais,
aussi.
Bon, je suis l'émission.
Oui. Non, oui, c'est vrai. J'ai découvert le travail de Joe Pera il y a quelques mois, et enfin il y a un peu plus d'un an, et du coup c'est un type qui a une façon déjà de parler, une élocution très douce. Qui donne vraiment envie de poser, de dormir.
Quand tu regardes ses interviews, tu sais pas si c'est lui vraiment ou si c'est un personnage, ouais, qui joue. En tout cas, il le joue tout le temps.
Puis il y a toujours une petite musique derrière qui est, exactement, très apaisante. Et en fait, il raconte des histoires. Et aussi, c'est souvent drôle. C'est un humour très spécial.
Ben, ça part toujours d'un truc où ça s'appelle Joe Pera Talks With You. Et en fait, à chaque fois, ça change de thème. Donc, il va parler des haricots, il va parler du petit-déj, il va parler de genre de trucs. Mais c'est un prétexte pour raconter une sorte d'histoire de sa vie, etc. Son rapport avec sa grand-mère, son rapport avec les autres. C'est un prof de musique dans un collège qui, tu sais, avec une vieille chorale d'enfants et tout. C'est hyper doux. Ouais. C'est hyper, j'allais dire onirique.
Ouais,
alors,
est-ce
que c'est un mot que je maîtrise? C'est ça la vraie question. Parce qu'il est venu là, mais je le maîtrise pas, donc je le dis.
Bien parce que moi je l'aime bien.
Eh ben voilà.
J'aime bien le mot onirique, je l'utilise beaucoup.
Et effectivement, par rapport à l'ambiance pesante qu'on a en ce moment, Joe Pera Talks With You, c'est la petite bulle. Il y a un épisode notamment dans la saison 1 qui s'appelle Joe Pera Talks You How to Sleep. Et genre en fait, il dit, vous aussi, vous avez été réveillé par l'orage, et il est dans son lit, et il dit, bon bah je vais essayer de vous rendormir, on va essayer de se rendormir ensemble, etc. Et on va faire la liste des bruits qu'on aime bien. Alors il fait une liste des bruits qu'il aime bien. C'est assez bizarre, mais c'est assez cool en fait.
Et où est-ce que tu trouves ça?
Sur YouTube.
Sur YouTube ou sur
un podcast, non?
Le replay de Adult Swim. Voilà.
Bah, je vais regarder.
Aurélien. C'est quoi? Il y a des images?
Oui, on le voit.
Oui, il y a des images. C'est une série. C'est une série.
Je sais pas. On dirait que c'est un podcast d'ASMR, ton truc.
C'est vrai que ça fait un peu ça.
Moi, qu'est-ce que je regarde? Eh bien, je regarde souvent des films de sport.
De baseball, non?
Ouais, de baseball. Ou de golf. Tu sais, des trucs genre, je sais pas, la légende de Bag Evans, par exemple. Très souvent, je le regarde, ce film. En fait, c'est souvent des films qui sont pas exceptionnels, mais où l'histoire, je sais pas, ça me porte. Professeur Hollande aussi, tiens. Richard Dreyfuss. Je regarde souvent Richard Dreyfuss. Je sais pas, les stories avec, souvent un peu vraies, où il y a un début, où ils galèrent, et à la fin, finalement, ils s'en sortent de fou, et avant qu'ils meurent, ils ont les honneurs, tu vois. Ça, j'aime bien.
Mais voilà. Du coup, c'est hyper logique.
C'est très
tu
logique.
Tu prends des gens dans la merde qui s'en sortent. C'est hyper logique avec l'état d'esprit.
Pour la dépression, c'est
vrai. Hyper bien.
Moi, je suis très terre à terre, en fait. Il y a pas de trucs compliqués. C'est très simple.
Moi, j'aime bien les films qui m'emportent ailleurs et surtout dans une autre époque et qui me rapprochent un peu de mon enfance. Par exemple, un film comme Un flic à la maternelle.
Oui.
C'est vraiment le genre de film qui met dans un très bon mood. Ouais. La musique est cool, l'histoire est cool, il y a quelque chose de très léger, de très naïf, tu vois. Bah, c'est armé de bons sentiments.
Bigfoot et Leigh Anderson, par exemple.
Oui, voilà, dans ce genre-là. Ouais, ouais. Et tu vois, hier soir, j'ai vu un film, alors j'ai un peu été influencé par les élections américaines, mais j'ai vu un film qui s'appelle Dave, en français, je crois que c'est Président pour un jour. Mmh. C'est un film de Ivan Reitman avec Kevin Kline et Sigourney Weaver. Et c'est le genre de film que tu regardes le dimanche soir et qui te met dans une bonne ambiance. En gros, rapidement, c'est l'histoire d'un sosie du président qui est engagé pour le remplacer le temps d'une journée, sauf qu'entre deux, le président fait une embolie, est dans le coma, et lui prolonge ce job temporaire, et il se prend au jeu, il veut devenir le président, en fait. C'est hyper cool, Et c'est dans la veine, justement dans la veine des films d'Ivan Reitman. C'est très cool. Alors, dans ce film qui s'intitule Big Fish, donc gros poisson en français, il y a toute une métaphore et une symbolique autour de cet animal. Et lorsque l'on voit apparaître des animaux à l'écran, dans plusieurs films, ils représentent souvent quelque chose, Guillaume.
En effet, vaste sujet, une nouvelle fois que la symbolique des animaux au cinéma. Chronique que je débuterai en vous demandant déjà simplement, quel est votre animal favori?
Amy. Ah, pardon, c'est une vraie question.
C'est une vraie question.
Je te laisse, ça a l'air vachement bien ce qu'il dit. Je suis très chien, loup et tout. Canidé, quoi.
Canidé, très bien, j'entends.
Je sais jamais dire.
T'as pas d'animal favori?
Non, je sais pas, un ours.
Un ours, c'est pas mal. Et toi?
Bah, y a toujours ce truc où j'ai jamais réussi à me positionner entre le chien et le chat.
Mais tu vas dire le chat.
Mais je vais dire le chat comme j'ai un chat. Voilà.
Très bien. Personne n'a cité la suite de ma chronique. S'il y a bien une race animale qui a une part belle dans les rôles au cinéma, c'est l'oiseau. Symbole de paix et de liberté pour la plupart, il a eu tous les emplois possibles. On pense directement au corbeau associé à la menace et au mal dans Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock en 1963, où les habitants de la petite ville de Bodega Bay sont attaqués par différents types d'oiseaux de façon inexplicable. Ici, l'oiseau est un symbole d'intrusion et de malaise. Il représente le danger. Certains y voient même une métaphore du viol dans la scène de Mélanie, interprétée par Tippi Hedren, qui se fait agresser par les oiseaux. Anecdote tabzienne et terrible anecdote. Le jour du tournage, on lui a appris que les oiseaux mécaniques ne fonctionnaient plus. Elle a donc passé 5 jours à se faire agresser par des vrais oiseaux. Certains étant même attachés à son costume avec des fils invisibles. C'était tellement rude que le lundi suivant, elle s'est écroulée d'épuisement et elle a été conduite à l'hôpital avec une paupière ouverte due à un coup de bec. Bonne ambiance. Il a rigolé.
Mais enfin.
Mais j'essaie de mettre un peu de rire parce qu'on n'est pas parti sur des bases de rire. Du coup maintenant je ris à tout et n'importe quoi.
Maintenant, la culpabilisation, ça suffit. La culpabilisation, je vais même pas la dire.
C'est dur. Hein. Très dur. Dans d'autres circonstances, les oiseaux symbolisent aussi le guide ou l'esprit supérieur, le pouvoir presque divin qui vient sauver l'homme, comme les aigles dans Le Seigneur des Anneaux, ou le phénix de Dumbledore, nommé Fumesec dans Harry Potter, qui peut même guérir les blessures avec ses larmes, ou encore la chouette d'Harry, qui représente la sécurité et l'aide à oublier son chagrin, à la manière de Falcor. Alors je sais ce que vous allez dire, c'est pas un animal, mais...
C'est mon animal préféré, moi.
Ah bah voilà,
je suis un dragon.
Falcor, le dragon à fourrure blanc nacré de l'histoire sans fin. Il y a de nombreux films utilisant les oiseaux de manière figurative pour symboliser le positivisme ou le négatif. Mais intéressons-nous à deux films qui n'en utilisent que le symbole pur, à savoir Birdman de Inarritu en 2014 et Black Swan de Aronofsky en 2010. Dans le premier, le personnage de Michael Keaton est confronté à son imaginaire, où il voit apparaître Birdman, son ancien rôle. Parallèle évident avec son ancien succès dans un autre animal fantasmé, la chauve-souris de Batman. Il représente son ancienne vie, la vie qu'il veut retrouver, son succès. C'est la voix de la déraison, la béquille psychologique, la sensation de pouvoir voler pour échapper au monde. L'aigle comme symbole de la liberté, de pouvoir et de puissance que tout le monde regarde avec respect. Dans le second, le personnage de Natalie Portman se prépare au rôle de sa vie, le cygne dans le lac des cygnes de Tchaïkovski. Le cygne noir est ici le négatif de cette vision, le mauvais présage basé sur la théorie du cygne noir, selon laquelle un événement qui a une faible probabilité de se produire a, s'il se produit, des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle. Les volatiles sont dans les deux cas utilisés en métaphore chimérique de l'état mental du personnage, de ses souhaits, de ses angoisses, rêve pour l'un, cauchemar pour l'autre. Vous avez suivi ?
Sonnerait tout ça.
En termes d'animaux guides, on pourra aussi citer le lapin. Je suis content parce que le passage d'avant, c'est moi qui l'ai trouvé tout seul. C'est magnifique ou pas?
Stylé quand même.
Ouais, on dirait une page Wikipédia, mais en fait, j'ai écrit comme Wikipédia, qu'est-ce qu'il y a? voilà. En termes d'animaux guides, on pourra aussi citer le lapin, dont on avait déjà parlé dans une chronique précédente. Et je vous invite par ce biais à consulter notre podcast sur Roger Rabbit.
Évidemment.
Chez les super-héros aussi, on puise dans l'univers animalier pour définir les caractères des personnages. Batman, Spider-Man, Black Panther, Wolverine. Le pingouin, Ant-Man ou encore Catwoman, tous évoluent avec les traits de caractère communément donnés à la créature dont ils tirent leur nom à la manière de Bruce Lee et du dragon. Parce que Bruce Lee, c'est quand même... à chaque fois, les titres de ses films, c'est La Fureur du Dragon et, par exemple...
La Mort du Dragon.
Le retour du dragon.
La mort et le retour du dragon.
Bien sûr, les animaux sont aussi souvent utilisés comme miroir de l'humanité et témoins de la folie des hommes, comme le chien Baxter dans le film de Jérôme Boivin en 89. Chien qui pense et qui nous permet de voir les travers de la société avec le recul d'un chien. Balthazar, l'âne dans Au hasard Balthazar de Robert Bresson en 66, où on suit la bête de propriétaire en propriétaire au cours de sa vie, dépeignant une humanité sans morale et violente, ou plus récemment, une créature inventée de toutes pièces, Le cochon géant dans le film Okja en 2017, ah ouais. Qui nous interroge sur notre rapport aux animaux et à la consommation de ceux-ci. On ne compte plus les films où les animaux deviennent prétexte à la réunification d'une famille, un projet commun, un élévateur de conscience, une leçon de morale, comme dans Sauvez Willy, Beethoven ou encore Bigfoot, qu'on citait tout à l'heure. Seul partenaire et dernier rempart contre la solitude et la dure réalité, dans Wendy et Lucie de Kelly Richard en 2008, ou alors La Route Sauvage de Andrew Egg, je sais pas comment ça se prononce, en 2017. Ils sont même le symbole d'éventuelle rédemption et d'un monde d'après, dans The Lobster de Yorgos Lanthimos. Parce que dans The Lobster, quand t'es célibataire trop longtemps, tu choisis l'animal dans lequel tu veux te transformer.
Ouais. Alors petite question, si vous pouviez vous transformer en animal, si on était dans le film The Lobster, vous choisiriez quel animal?
Bah dans The Lobster, il veut se réincarner en
homard, non?
En homard ou en
lobster?
Non, en homard, t'as raison. Je dirais. Attends, un animal, l'aigle.
C'est stylé. Bah, c'est stylé en vrai.
L'aigle royal, bah, qu'est-ce que tu vas faire?
Donc, qu'est-ce que tu prennes quelque chose en haut de la chaîne, parce que si tu prends un truc un peu foireux où tu passes ton temps à courir comme une merde, c'est pas ouf. À te dire à chaque fois que tu sors pour aller faire les courses.
Donc, Guillaume, ce serait l'aigle royal. T'as rajouté royal en plus.
Ouais, parce que je trouve que ça me va bien, quoi.
Et Mick, je dirais quel animal, toi?
Je serais une baleine, je crois.
Ah, une baleine.
Ah, ouais. Pas mal.
C'est tranquille en même temps.
Ouais, mais j'aime bien, moi, je suis tranquille.
Ça prend son temps et tout.
Je suis tranquille et puis j'ai toujours écouté des chants de baleines quand j'étais angoissée.
Ah ouais?
Ouais, les sons de l'océan m'appellent.
Un petit Walter Mitty, un petit chant de baleine et au pieu. Bonne nuit tout le monde.
Fais attention, ça va devenir compliqué entre toi et moi.
Pas mal, les chants de baleines.
Je sais pas. Falcor, c'était pas mal.
Mais sinon,
un gros truc, tu aurais incarné en Falcor, hein, je le rappelle, hein, c'est un personnage de fiction.
Ouais. Ah merde.
Sinon, je me réincarne en Roger Rabbit, hein, on fait ce
Non, oui, un oiseau, c'est quand même pas mal, un oiseau. Chaque fois, ils me font marrer, tu sais, je regarde les oiseaux, tu sais, quand ils se battent contre le vent, là. Je dirais, leur vie, c'est vraiment un truc, aujourd'hui, je me bats contre le vent. Et tu sais, ils restent en stationnaire.
Ouais,
je suis en stationnaire. C'est ton truc de la journée, ça. Et après, tu dors.
Mais surtout, c'est ça. Et bah, surtout, ça, ce qu'ils se disent, c'est, vas-y, je me lève, je vais bouffer. Après, ils ont bouffé, ils font, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais voler, je vais bouffer. Allez, bonne nuit. C'est tout ce qu'ils font.
Ouais, mais en même temps,
c'est tout ce qu'ils font.
C'est ce qu'on faisait au début à l'avant.
Ouais,
on s'emmerde avec des idées superflues.
Exactement.
Ouais, c'est clair.
Bah, moi, je pense que je prendrais le chat encore une fois. Non, mais c'est vrai, parfois, je regarde mon chat et je me dis, il est vraiment à la cool.
Et bah, parmi tous les animaux qu'on a cités, le seul que j'ai envie de voir avant de mourir, c'est la baleine. Parce que franchement, la dernière fois,
je rigolais,
je vais me refaire. La dernière fois, j'ai regardé des vidéos de baleines quand même, parce que je trouve ça incroyable.
Ouais, mais
tu tombes nez à nez avec une baleine.
Je t'ai pas envoyé une vidéo de baleine il y a pas longtemps.
Moi, je t'ai envoyé une vidéo de baleine.
Ah, toi, tu m'as envoyé une vidéo de baleine, et dans cette vidéo de baleine.
C'était la vidéo déprimante.
On s'envoie des super vidéos.
J'ai très envie de voir ce gros poids de
sable.
Regarde une baleine. Et oui, il m'a envoyé une vidéo de baleine, et c'était impressionnant parce que la taille de la baleine, c'était fou. Oui, et d'ailleurs, je t'avais répondu à un truc très pertinent. Je t'avais répondu, ça doit être impressionnant d'être dans un bateau à côté. Je t'ai répondu ça, voilà.
Vous pouvez voir les experts en sciences.
Tout ce qui se passe sous l'eau est hyper fascinant et je vous conseille de voir une, peut-être vous l'avez déjà vu, c'est la vidéo que je regarde tout le temps. Guillaume Néry, qui est un apnéiste français.
Ouais.
Je sais pas si ça vous parle.
Ouais. Il a dit ouais, mais il connaît pas.
Guillaume Néry,
sa femme est réalisatrice et elle est apnéiste aussi. Ils ont fait un film ensemble, un court-métrage à travers le monde. C'est que des fonds marins et c'est incroyable. Je vous invite à regarder ça parce que du coup, tu verras des baleines qui sont très grosses. Si c'est des baleines grosses que tu veux voir. Mais il y a aussi des fonds marins qui sont superbes et c'est, la musique est très belle et tout. Il y a vrai truc à regarder. On dirait la science-fiction tellement les fonds marins avec les faisceaux de lumière font, tu sais pas si t'es dans l'espace ou sous l'eau. C'est incroyable.
On sait pas ce qu'il y a, tout. Ça se trouve, il y a un truc de fou. Hein.
Mais j'ai regardé Underwater hier soir. J'étais là, putain, quand même. T'imagines les dinosaures qui sont encore là-dessous, qu'on est au courant.
C'est sûr.
Mais j'avais lu un article récemment, je crois que c'était vers l'Islande, le plus vieux requin de l'histoire. Je crois qu'il a plus de 600, 700. En tout cas, il a vécu Napoléon, en tout cas. Oh.
Il est encore vivant, le mec?
Non, le requin.
Napoléon,
le
mec, il est mort.
C'est un mec, le requin. Je l'appelle
Napoléon, il est mort, Aurélien.
C'est un poteau pour moi. Le requin,
ça va lui faire un choc, gardons cette information.
Wow. Je l'appelle le mec. Napoléon est mort.
Et ce requin est encore vivant. C'est assez incroyable.
Et en parlant des documentaires animaliers et qui font du bien en cette période, je vous conseille sur Netflix Ma maîtresse la pieuvre. Je sais pas si vous avez
vu.
Ah oui.
Oh là là.
Ah non, j'ai pas osé, j'ai un peu peur des pieuvres.
Si vous avez déjà,
Passagesse des pieuvres.
Alors, j'adore déjà les documentaires animaliers, mais c'est la première fois que je verse une larme devant un documentaire animalier. Vraiment. En fait, c'est un mec un peu en dépression, etc. Il est rentré en connexion, il a fait de la plongée tous les jours. Et il est rentré en connexion avec une pieuvre. C'est incroyable. Regardez ça, c'est fou. Ça donne espoir en la vie. Et ça donne encore plus envie d'être...
Et ça donne encore plus envie d'être végétarien.
Bien entendu. Et ben voilà, mais voilà, vous l'aurez compris, le sujet est inépuisable et il le faudrait quelques jours pour en dresser un état des lieux exhaustif. Il nous guide, il nous reflète, il nous transcende et il nous complète tellement qu'il est difficile de finir cette chronique sur autre chose que ce mièvre, sobre et réaliste constat à tout jamais. Vive les animaux!
Ouais!
Ça, c'est vrai.
Bravo, bravo.
Okay. Eh ouais, voilà.
Très belle chronique.
Ah, merci.
J'ai une petite question pour vous. Là, comme ça, là, direct, quand on y pense.
Falcor.
Un animal. un animal qui vous a marqué au cinéma.
Émile. Bah, voilà.
Le corbeau dans The Crow.
Le corbeau dans The Crow,
ah,
oui.
Ouais.
Alors pourquoi,
ouais.
Pourquoi c'est celui-là qui vient direct?
Bah, déjà parce que j'étais un peu amoureuse de Brandon Lee, faut le dire.
Ça n'a pas duré longtemps.
Faut le dire. Oh, arrête, mon dieu!
Vous avez décidé de déprimer Émile.
Mais non, mais je t'avais dit qu'il fallait pas le dire pour Napoléon, il est enroulé pour le jeune homme, là. Attends. Non, oui, pourquoi? Parce que ce film, il m'a marqué, j'adorais ce film, en fait, et puis je crois que ça a été la première fois que j'ai commencé à comprendre la mort.
Ouais.
Ok.
Parce que c'est la thématique qui représente vachement ça, mais il fait revenir les gens. Donc je pense que t'avais aussi ce petit espoir d'enfant de il y a des gens, ils peuvent revenir en fait.
Ouais.
Mais c'est pas des fantômes. Tu peux les toucher et tout. Voilà, je dirais le corbeau. Ouais.
Très bien, Guillaume, un animal qui t'a marqué au cinéma.
Quand j'étais petit, bon évidemment Einstein de Retour à le futur, mais je dirais Beethoven.
Beethoven.
Ah, les gros chiens.
Parce que Beethoven, quand j'étais petit, j'adorais. Et aussi, j'avais une cassette Disney qui s'appelait Benji, la malice, un petit chien de forêt. Et je regardais ça, j'aimais bien.
Alors tu sais que mon album préféré, j'en parle très souvent sur les réseaux, mon album préféré est un album de Sun Kil Moon qui s'appelle Benji.
Et en fait, vient de ça?
Mais ça vient de là en fait. It was the first time I saw her, a palm tree or a lizard, or saw an ocean, or heard David Bowie's Young Americans, and I saw the movie Benji in the theater. Aurélien.
Moi quand j'étais petit, pas trop, c'est plutôt là, genre il y a 10-15 ans là, Entre chien et chat, j'adore ce film. Il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de chats, ils se battent, c'est la bagarre.
J'en avais déjà parlé en plus.
J'en ai déjà parlé.
Je l'adore ce film.
Et ça, je le regarde tout le temps. Ça et Stuart Little, me demandez pas pourquoi, j'adore Stuart Little.
C'est génial.
Voilà, je sais pas, une petite souris qui est adoptée par des humains et tout paraît normal. Genre juste, il est trop petit,
on la voulait tous, cette souris. On voulait avoir un Stuart.
C'est Gina Davis, c'est ça?
Ouais, il parle et tout. Ouais, Gina Davis et Dr House.
Oui, c'est vrai.
Qui fait le rap.
Et toi?
Bah tout à l'heure t'en parlais, pour moi c'est l'âne dans Hasard Balthazar de Robert Bresson.
Ah ouais?
Parce que je pense que c'est c'est l'histoire avec un animal qui m'a le plus marqué, avec Baxter, qui est un film français. Et voilà, quand on regarde Au Hasard Balthazar, c'est un film vraiment, souvent parfois dans les critiques il y a écrit film bouleversant, mais là c'est le cas vraiment. C'est-à-dire que tu sors de la salle et t'es, tu l'as déjà vu?
Non.
Tu sors de la salle et t'es t'as plus aucune foi en l'humanité, etc.
Ah, c'est pas du tout un film facile, par contre. Hein.
Non, c'est très peu facile, mais
faut s'accrocher un peu.
Et l'ours?
Ouais, l'ours. Et parce que la suite est Babe, hein, tout simplement, quoi.
Ouais, Babe.
Ah,
beaucoup
Babe.
De choses qui parlent. Ben,
Oh, c'est fou.
C'est vrai que c'est beau quand ça part.
J'avais oublié celui-là.
En tout cas, ce qui est marrant, c'est que finalement, l'animal star au cinéma, c'est le chien, et personne n'a cité de chien.
Benji.
Ah si, Benji.
Il a dit Beethoven, hein.
Il parlait que de ça.
Oui, t'en as dit plein, en fait. T'en as dit,
il parlait que de ça, lui, c'est bon.
Non, parce que t'as dit le premier aussi.
Oui.
Du coup, ça fait niche.
Einstein, Benji, Beethoven, excuse-moi.
Non, mais c'est vrai, souvent quand il y a un chien, et puis il y a un truc aussi qui est formidable avec le chien dans les films, c'est que quand le chien est en passe, pourquoi pas, de mourir, on est là genre, oh non, pas le chien.
Ouais.
On voit que le chien,
il meurt.
Les humains, on s'en fout, alors que les chiens, non, tu vois.
Ouais, j'avoue.
Il y avait une règle au cinéma qui était ne jamais tuer le chien. Et il y a des gens comme, c'est souvent la règle, genre, ne pas tuer le chien parce que sinon le spectateur décroche ou est déçu du film ou quoi, tu vois.
C'est génial.
Et j'avais lu dans un bouquin de scénariste que très souvent, il y avait des films dans lesquels le chien mourait et les producteurs mettaient la pression pour dire, non, cette
faut
scène, tu fais pas mourir le chien parce que sinon ça va dégoûter les spectateurs.
Tu veux dire qu'il y avait donc des réunions de crise?
Mais non,
pendant des heures,
mais je trouve ça normal.
On le bute le chien ou pas?
Mais non, mais t'as pas envie.
Je trouve ça normal, il y a des gens qui veulent pas voir ça.
Ouais.
Et tu veux que je te dise?
Moi, j'ai pas envie de voir des meurtres tout court.
Le prochain court-métrage que j'écris et que je tourne, c'est avec un chien.
Ah! Il meurt ou pas?
Ah bah, tu verras. On est en réunion de crise avec la prod.
En fait, tu sais ce qui se passe, en fait. En fait, t'as fait tuer le chien dans ton court-métrage et là, t'es en train de te rendre compte que ça va faire un bad buzz.
Mais non, mais je vais appeler le corbeau.
Ah, voilà.
Ça va aller.
Et Napoléon, puisqu'apparemment il est encore vivant. Appelle-le.
Alors, dans ce film, le personnage interprété par Ewan McGregor, jeune, et Albert Finney, vieux, distribue tout au long du film une série d'histoires qui s'apparentent à des mensonges.
Ah oui.
En gros, il passe pour un méga mytho.
Je répondrai seulement, calme-toi.
Et des mythos dans l'histoire du cinéma, il y en a beaucoup. Du coup, on va jouer à un petit jeu. Je vais vous donner des noms de personnages dans des films, des mythos célèbres, et il va falloir me donner le titre du film.
Oula, d'accord, je suis très mauvaise là-dedans.
Donc, leur nom de personnage dans le film. Il faut me trouver le film, ok?
Ouah, ok.
Non, mais vous verrez, c'est facile. On commence avec le premier personnage, vraiment niveau facile. On cherche le film. Ce mytho célèbre dans l'histoire du cinéma s'appelle Serge Benhamou.
C'est Guillaume.
J'ai vu que Guillaume était très concentré.
Je suis très concentré.
On l'entend plus.
Je le connais, Guillaume. Quand il parle pas, c'est qu'il est très concentré. Effectivement, Serge Benhamou, méga mytho de l'histoire du cinéma, dans La vérité si je mens. Un mytho délicieux, n'est-ce pas, Serge Benhamou?
Deuxième mytho.
Un mytho qui s'appelle Franck Abagnale Jr.
Ah, c'est Arrête-moi si tu peux.
Oh, joli.
Oh, alors là.
Et c'est un vrai personnage. Alors, toi qui connais, raconte-nous un peu l'histoire de ce Franck Abagnale Jr.
Eh bien, c'est un mec qui, très jeune, à 16-17 ans, donc joué par Leonardo DiCaprio dans le film de Spielberg, décide qu'il a une vie folle. Il se fait passer pour... Au début, en fait, il récupère des chèques et se fait passer pour
un
pilote d'avion, ouais. D'avion même, carrément, un pilote, ouais. Le mec, alors qu'il a jamais piloté. À un moment, il se retrouve carrément au volant et il dit « Non, je pense que c'est mieux que ce soit le copilote qui le fasse. »
Il
s'invente plein de trucs, ouais. Il devient médecin et tout ça pour avoir des chèques et tout ça. Et il est poursuivi par Tom Hanks. Je le raconte très mal, mais en vrai, c'est le pire mytho de l'histoire. Surtout le plus gros arnaqueur.
Non, le plus
en fait.
Grand mytho de l'histoire, peut-être.
Surtout le plus grand arnaqueur.
Quoi qu'il y a Rocancourt aussi, c'était un beau mytho, Rocancourt.
Un bon mytho.
Ouais, Rocancourt, elle est bon.
Mais c'est un très bon film à voir déprimé.
C'est super.
Un film vraiment cool.
Ouais. Et puis l'histoire entre Tom Hanks et le récupéreur, elle est assez folle. Et il y a Christopher Walken qui joue le père de DiCaprio.
Le casting est fou.
Il y a aussi une française, il y a Isabelle Huppert, il me semble.
Tout à fait, qui joue sa mère.
Exactement.
La mère de DiCaprio, qui est très cool aussi.
Là, j'ai un mytho que vous connaissez tous et que vous adorez, qui est très facile à trouver. Son nom dans le film, c'est Daniel Hillard. Alors là, comme ça, c'est pas si facile que ça, mais il n'a pas que ça comme nom. Il a un autre nom qui est Iphigénie. Daniel Hillard, mais il se fait appeler Iphigénie.
Iphigénie.
Pourquoi il se donne un nom féminin comme ça?
Ah, c'est Robin Williams?
C'est là!
C'est Doubtfire.
Bravo, Amy. Amy qui marque, et vous avez tous un point. Un point chacun.
C'est bon, je sauve l'honneur.
Madame Doubtfire, exactement.
C'est vrai que c'est un mytho.
Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film.
Ça, c'est un film très feel good, très, quand t'es déprimé.
Ouais, Robin Williams, de toute façon.
Il est incroyable.
Moi, c'est ma religion, ce mec.
Ah. Michel Leeb aussi, qui l'a repris au théâtre.
Oui, au théâtre, effectivement.
Oh putain, sortez-le. Sortez-le.
J'aurais pu citer également Tootsie dans le même genre.
Oui, exactement.
Très bien, je l'ai revu un peu longtemps. Super.
Alors, le prochain est un peu plus spécifique. Je ne vais pas parler d'un mytho précis, mais le mytho, ça va être, et attention, ça peut aller très vite, toute une ville.
Truman Show.
Mytho. Oh, Truman Show. Ouh, bravo. Elle prend l'avantage. Toute une ville, Truman Show, parce que là, c'est pas un personnage qui ment, c'est tous les personnages de la ville qui mentent.
J'avais dit Mytho City, je pense que ça marche aussi.
J'étais
parti
dans
une c'est la version française. Ouais, c'est la version canadienne, parce qu'ils aiment bien faire ça.
Bravo, Amy. C'est effectivement le Truman Show, toute une ville.
Très bien joué.
Le prochain, là, si vous le trouvez direct, vous êtes très chaud, mais je vais aller avec des indices. Fletcher Reed, qui est un menteur délicieux dans l'histoire du cinéma. Je l'adore, ce menteur.
Ah,
Fletcher Reed. C'est un film de 1997.
Ok.
De Tom Shadyac. Et Tom Shadyac, on le connaît parce qu'il a réalisé Ace Ventura ou encore Bruce Tout-Puissant.
Oh là là,
Menteur-menteur, c'est là, il égalise. C'est menteur-menteur.
J'étais parti sur Fight Club au début, comme une buse.
Qui est pas vraiment un mytho.
J'avais Fletcher.
C'est pas un mytho dans Fight Club.
Et Amy l'a précisé, il n'y a pas de mytho dans Fight Club.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce film. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, c'est un film qui, encore une fois, est très... bonne ambiance, quand on est déprimé.
Feel good movie.
Et c'est l'histoire d'un type qui ment très souvent, donc incarné par Jim Carrey, et qui du jour au lendemain se retrouve avec un sort, et ce sort fait qu'il est obligé de dire la vérité. Donc il peut pas se contrôler, donc il dit la vérité tout le temps.
Il a un procès.
Exactement. Et il est avocat, et il doit gérer un procès, donc c'est très drôle.
Très galère.
Et dans le même genre, un film dont on parle souvent avec Guillaume, que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'inverse total. C'est un film qui s'appelle The Invention of Lying avec Ricky Gervais. Et là, c'est tout le contraire. En fait, c'est un monde dans lequel le mensonge n'existe pas.
Trop bien.
Tu as déjà vu, Amy, ce film?
Non, mais c'est le titre, cool. Il me parle parce que je crois, enfin, il y a un truc qui s'appelle un peu pareil. Mais du coup, mais le concept est.
Mais le concept est trop bien. Et en gros, jamais personne n'a menti. Donc ça crée des scènes qui sont vraiment drôles où chacun est honnête avec l'autre. Donc c'est horrible. Et en fait, il y a un moment où Ricky Gervais se rend compte que, bah, quand tu mens, il se passe plein de trucs très cool. Genre, il va dans une banque, il dit, j'aimerais, avoir 100 000 dollars. Ben non, vous avez pas ça sur votre compte. Bah si, je vous dis que je l'ai. Ah bah si, vous le dites. Et là, il donne 100 000 dollars. Et donc, il y a plein de trucs comme ça. Et là, il se dit qu'il a un pouvoir extraordinaire. Par exemple, ben, il va voir une femme dans la rue, et il dit, bon, faut qu'on couche ensemble, sinon, il y a la fin du monde demain. Bon, finalement, il le fait pas parce que le
ça
film.
Ça s'appelle
comme,
du viol,
le film est quand même woke.
Voilà.
C'est là où je voulais en venir. Le film est quand même woke, donc finalement, il le fait pas. Mais en gros, ça laisse comme ça tout un pan de possibilités et, c'est assez. En fait, je trouvais ça fou que personne n'ait eu l'idée de faire ce film-là avant.
C'est vrai.
Peut-être que ça a déjà existé, mais que c'est moins connu, je sais pas. Mais
bah, ouais. Je sais pas.
Non, mais ça, c'est une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps. Il y a des concepts qui sont très très simples. Ouais. En fait, et tu te dis, mais attends, ils ont pas exploité ça, c'est fou quand
c'est
même.
Vrai.
Et tant mieux. Comme ça, on aura du boulot, nous.
Ouais, c'est vrai.
Alors là, j'ai quatre mythos d'un coup dans le même film.
Oh la vache.
J'ai leur prénom. Prénom seulement.
Ah.
Kai-tek, Chung-suk, Ki-woo et Ki-jung.
Oh là.
Kai-tek, Chung-suk, Ki-woo et Ki-jung, quatre films, un film que vous avez vu et que je suis sûr vous avez adoré.
Ah bon?
Un véritable chef-d'œuvre.
C'est sûr que j'ai vu ça.
Le mot est lâché, c'est un chef-d'œuvre.
Parasite.
Parasite, et oui.
Ah oui,
oh là. Ben oui, bravo,
attention,
Aurélien.
Je vais dire un truc, que ça allait me frapper.
Elle a pas aimé Parasite.
Non, rien à voir. Ah. C'est même pas eu, j'ai eu l'occasion ou pas. C'est que je me suis endormie à la moitié, j'étais malade. Okay. Je me suis endormie. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais lancé la deuxième. Du coup, ça fait vraiment.
T'as pas la force.
Ça fait un an que je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe après? Ah, et ça me vient même pas à l'idée.
Alors que c'est justement au milieu du film que ça devient intéressant.
Mais oui, c'est ce qu'on m'a dit, en plus. C'est ça qui est terrible.
Bien joué, comme ça. Quoi. Maintenant, faut que tu te lances. Ça fait 2 points pour toi et vous,
2-2 partout.
2-2 partout,
c'est
incroyable.
Oh
là là, c'est incroyable.
C'est beau.
Il en reste 4.
Comme ça va être Mytho City, là, je pense.
C'est rare qu'un jeu ait été aussi serré dans l'émission.
C'est vrai, c'est 2-2-2.
Ça répond. 2-2-2. Le prochain menteur, c'est qui ce mec, là, je suis en train. Ah oui, je l'adore, ce menteur.
Ah oui, d'accord.
Je l'adore, ce menteur. Il s'appelle Harry Tasker.
Ah.
Ça te parle, ça.
Ah, Aurélien, ça lui parle. C'est un méchant qui s'appelle Harry Tasker.
C'est un méchant, déjà.
Méchant, pardon, c'est un personnage, je dis n'importe quoi. Film de 1994, et je vais vous dire son mensonge. Oui. Son mensonge, c'est de faire croire aux autres que son métier est chiant à mourir. Alors que non. Il a un métier génial. Mais il dit aux autres qu'il a un métier chiant à mourir.
Chiant à mourir, oui, t'insistes bien sur chiant à mourir.
Donc... Ouais, enfin, je sais plus ce que c'est.
Il y a un truc à la morgue.
Enfin, oui, enfin, non, c'est pas ça. C'est pas un indice.
Attends.
Et il fait croire.
C'est True Lies.
Oh, True Lies! Oh, c'est
j'aurais
là!
Jamais
c'est vrai!
Bravo, Guillaume!
Oh là là, s'appelle Harry Tasker.
Oh là là, incroyable cette partie. 3, 2, 2.
Je l'aurais jamais.
Il s'appelait Harry Tasker.
T'as déjà vu True Lies, Amy?
J'ai dû le revoir parce que mon père, il me faisait regarder tout ça. Mon père m'a élevé qu'avec des films, il m'a dit l'école. Laisse tomber, je vais te montrer les films qui t'éduquent. Il m'a élevé au cinéma. Mais du coup, il m'a.
Ça te sert dans la vie de tous les jours, True Lies, en plus. Ça qui est bien.
Moi, c'est comme ça que j'ai appris à rentrer dans un ascenseur avec un cheval.
Ouais, c'est vrai.
Attends, mais sors-moi le casting de True Lies.
C'est Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis.
Jamie Lee Curtis, mais oui, mais c'est la scène du striptease.
Exactement.
Oui. C'est bon, j'ai.
Je sais pas du tout laquelle c'est, par contre, ça.
Je m'en rappelle pas. Et c'est un remake d'un film français, La Totale, avec Thierry Lhermitte et Michel Bougelard.
Et Michel Bougelard, qui est un sacré.
Une scène d'hélicoptère finale incroyable.
J'aimerais bien connaître la fin de cette phrase.
Ah, c'est un sacré menteur, justement.
Ah oui.
C'est encore pire. C'est un pire mytho dans la version française.
Il reste 3 mythos à trouver.
Ça veut dire que j'ai 3 points, quoi.
Ouais, 3-2-2.
On célèbre pas tellement, mais je suis en tête.
Ouais, c'est vrai. Il reste 3 mythos. Le prochain, ça s'appelle Alexander Kerner. Ou Alexander
Pourquoi
Kerner.
Pourquoi on est si naze avec les noms? Dès qu'on a les noms, t'as vu, c'est pas ça qui nous fait.
Ouais, c'est fou. Alexander Kerner.
Quelle année,
ouais.
Film de 2003. Hein? Et ce personnage, alors attention, ça peut aller très vite. Ce personnage fait croire à sa mère qu'elle vit encore dans un monde révolu.
Il est juste avant Lénine, voilà, c'est tout.
Il l'a eu avant Amy. Goodbye Lénine, bravo Aurélien.
Fait une danse avec Goodbye Staline, donc bon.
3-3-2.
J'adore ce film.
Et effectivement, dans ce film, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'une femme qui a un infarctus en 1989. Et lorsqu'elle se réveille en 2003, le monde a bien changé. Et pour que sa mère n'ait pas un deuxième infarctus, son fils lui fait croire que c'est encore l'ancienne RDA.
Ouais.
Donc il fait en sorte de créer comme ça un décor autour d'elle pour qu'elle pense que rien n'a évolué et que c'est le lendemain en fait.
Il ramène surtout de la bouffe de merde, je me rappelle.
Ouais.
Non, parce que t'imagines quand même, là c'est planquer le communisme quoi. Donc c'est planquer le capitalisme parce qu'eux ils sont du côté communisme. Et du coup t'as tous les nouveaux logos qui sont là et tout, ouais, c'est l'enfer sur Terre.
C'est un mytho très ambitieux.
mais c'est beau.
Il en reste 2, ça fait 3-3-2.
Oh la vache, j'en déficit.
Attention, par contre, ce qui est formidable, c'est que si là, Amy t'égalise, il reste une question après. Et ça, après, c'est beau.
Feu. Ah, écoute, c'est moi, vrai. J'adore ça, participer. Beau. Très peu gagner.
Ce méchant, pourquoi je dis méchant? Ce mytho s'appelle Tom Stahl, mais également Joe Cusack. Il a deux noms. Et ça a son importance.
25e heure?
Non.
Non. Il Putain, a deux, il a, non, il j'ai Cusack dans la tête, du coup, ça a ouais, perdu.
Il a deux noms dans le film et ça a son importance. Deux noms car double identité. C'est pour ça que c'est un mytho, en fait. Double identité. Tom Stahl, Joe Cusack. Il s'agit d'un homme, attention, ça peut aller vite. Il s'agit d'un homme qui a refait sa vie ailleurs pour oublier son sombre passé. Même sa famille ignore tout de lui. C'est un film de 2005. Sa famille ignore qui il est. Il a tout un passé sombre. Il s'est refait une petite vie ailleurs, dans une petite ville américaine.
Ah ouais.
Parce qu'il veut cacher sa vie d'avant. Film super.
Donald Trump, ça, je
Ah
crois.
Putain, j'ai Viggo Mortensen.
C'est et effectivement Viggo Mortensen.
Story of Violence.
Je dis un truc.
Me calme-toi. Il est fou, ce
Il est là, le titre. Attendez. Je vais dire un truc. Je le donne à Amy. Parce qu'elle a dit Viggo Mortensen et qu'en plus, ça met du panache pour la dernière question. 3-3-3. Mais effectivement, Guillaume avait raison. C'est History of Violence.
Mais elle aime pas laisser finir. J'ai le droit de commencer par l'acteur qui représente le rôle, quand même.
Elle allait dire le Hobbit ou je sais pas quoi.
Amy. Est-ce que t'aurais trouvé History of Violence, Amy?
Bah, tu réécouteras, tu verras que je le dis en même temps.
Je crois que tu c'est le dis pas, peine de réécouter.
Si, si.
Ah, tu le dis?
Okay, merci, d'accord. Putain, j'ai qu'un allié ici, bon, c'est noté.
Non, c'est moi noté. Aussi, mais... mais bon, j'ai le point, quoi.
Non, ce qui fait que c'est formidable, il y a eu 9 questions. 3-3-3, il y a eu 9 questions.
C'est à qui tout
double. C'est à qui tout double, et en plus, la dernière n'est pas évidente. La dernière n'est pas évidente.
C'est-à-dire que si on gagne, on est des génies du ciné, c'est ça que tu nous dis?
Pas vraiment.
Ok.
Alors, ce mythomane s'appelle dans le film... Et également dans la vraie vie, c'est un premier indice, Joseph Di Pistone. Joseph Di Pistone.
Il doit être coréen celui-là parce que...
Film de 1997, c'est une histoire vraie, figurez-vous. Histoire vraie, c'est pour ça que c'est le vrai personnage, Joseph Di Pistone. C'est l'histoire d'un type qui infiltre une famille pour le compte d'une organisation. Je ne peux pas en dire plus.
Denis Brasco.
Oh, Denis Brasco, c'est Wally qui gagne, bravo, on peut l'applaudir, là!
Ah, mais je suis contente que ce soit toi et pas toi! Je suis contente! J'ai un préféré! Voilà.
Effectivement, Aurélien, bravo, c'est
Putain,
Denis Brasco.
Il est beau, celui-là.
Avec Al Pacino et Johnny Depp. Et exact. Johnny Depp qui interprète un agent du FBI qui intègre une famille de mafieux. Et c'est une histoire vraie. Et pour ceux qui n'ont jamais vu, voilà.
Gardez-le, je vous en
supplie. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce film, je vous le conseille, il est vraiment cool. Et surtout, après, de lire l'histoire et le livre de Joseph Di Pistone, parce que c'est vraiment fascinant.
Victoire d'Aurélien, bravo.
Bravo Aurélien. Mais c'était un très beau match, vous avez été très très bon. Bravo.
Ouais, c'était chaud.
Alors là, je viens de lister plusieurs menteurs célèbres au cinéma. Mais la question qui vient, c'est, et vous? Est-ce que vous avez des souvenirs de petits ou gros mythos que vous avez pu sortir dans votre vie? Alors, je sais que c'est pas évident de répondre à cette question, parce qu'on a envie de garder ces mythos en place, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'utiliser des gros ou des petits mythos? J'imagine que oui, on a tous eu des mythos quand même. Hein? Là, je vois que ça réfléchit autour du, des plateaux.
Comment on les présenter?
Non, mais c'est ce que vous êtes en train de réfléchir, c'est est-ce que je peux balancer ce mytho ou est-ce
non,
que je peux
non,
pas
mais
balancer?
Attends, justement, je...
Non, j'essaie de trouver un rigolo au moins.
Ben ouais.
Parce que les trucs de non parce qu'en fait mon Uber a eu un accident, c'est pour ça que je suis pas là à l'heure, c'est nul.
Est-ce que vous pensez qu'on ment une fois par jour? Au moins.
Non.
Non,
je pense pas.
Par exemple, le genre de petits mythos comme ça, tu vois.
Tous les jours.
Ah oui, mais les petits mythos. Non,
mais... Très optimiste.
On se ment soi-même tous les jours.
Il y a des petits mythos. Tu... Par exemple, je sais
mais
pas.
Mais moi, je ment pas.
Bon, allez,
le
là.
Truc, quand t'as fini de bouffer un truc, et non, c'est toi, chérie, qui avait mangé ça. Ben non, mais ce genre de truc.
Oui, voilà.
Enfin, mais ça, du coup, tu considères ça comme un gros mytho?
Non, c'est des petits mythos.
Mais du coup, oui, c'est journalier.
Ben voilà.
Parce que je mange beaucoup de gâteaux.
Ben voilà. Donc, voilà. Donc c'est bien ce que je dis. Chaque jour, il peut y avoir au moins un mytho.
Hein, c'est possible, mensonge, c'est possible.
Ouais, bien sûr.
Et puis maintenant, encore plus, si tu sors sans attestation.
Ah, exemple. Ouais, exemple. La dernière fois, d'un mytho, mais qui m'a servi. La dernière fois, je commande sur Deliveroo un sandwich. D'accord? Finalement, mon téléphone, plus de batterie. Je me dis, bah attends, ça fait du temps quand même, mon sandwich, là, il arrive pas, c'est chiant. Je regarde mon téléphone, éteint. Je me dis, putain, merde. Là, je le rallume. 5 messages du livreur. Alors, je suis en bas, qu'est-ce qui se passe, etc., machin et tout. Là, j'appelle Deliveroo, ils me disent, ouais, bon, bah, votre commande, on peut pas, vous la ramenez, donc vous avez perdu, je sais pas, 20 euros, c'est terminé, tu vois. Et donc, j'ai inventé le mytho que mon téléphone était allumé et que je comprends pas pourquoi c'est tombé directement sur répondeur, tu vois. Pour avoir, voilà, c'est le genre de mytho.
La fraude, quoi.
Oui, c'est un peu de la fraude, effectivement.
Pas mal.
Et c'est le genre de mytho. Mais est-ce que vous avez, comme ça, un souvenir d'un mytho que
Moi,
vous avez pu sortir?
Ça de la survie, hein.
Oui, c'est vrai.
J'avais faim, quand même.
J'avais faim et je voulais surtout pas perdre 20 euros.
Bah oui, c'est normal.
Bah, c'est normal.
J'ai un mytho de thune, pas mal.
mais je devais mixer à une soirée dans un club chez Moon à Paris, et on était deux à mixer, et finalement arrivé minuit, mon comparse me dit ouais, laisse tomber mec, je suis pas bien, je vais pas venir. Du coup je vais me taper la soirée, sauf qu'on passait en dernier, du coup c'est relou parce que j'attends en fait, tu vois, pour mixer. Donc il y a une heure qui mixe, deuxième heure qui mixe, et moi je me retrouve troisième heure, tu vois. Et je l'ai mixé pendant une heure, et bon, je me suis fait chier, j'ai déjà un pipi collé et tout ça, tu vois. Et pendant les deux heures, il y a un des mecs de l'association, il me dit, tiens, je te paye maintenant avant d'être trop bourré et tout, tiens, prends ton enveloppe et tout ça. Il me file 300 balles. Bon, c'était le prix, pourquoi pas. Je prends les 300 balles, cool, je les mets dans mon manteau. Et là, je commence à mixer. J'ai mis trois morceaux, tu vois. Trois morceaux, et là, les keufs, ils arrivent, je sais pas ce qui s'est passé, nanana, fin de soirée, ouais, laissez tomber, c'est mort, etc., tu vois. Et du coup, un autre mec de leur game, il me voit, il fait, bah mec, t'as vu là, on va pas te payer, tu vois, t'as passé trois morceaux et tout. Je fais, non, mais c'est clair, ouais, grave et tout, et c'est pas grave. Et du coup, j'ai jamais dit que j'avais déjà été payé, et je suis parti avec l'argent.
Voilà!
Mais ça, ouais, mais c'est comme le Deliveroo.
Ça aussi, ça, c'est normal. Case survie.
T'es venu, tu t'es fait, tu t'es fiché et tout.
Bah, j'ai pas mytho alors.
Bah, c'est un mytho. C'est un mytho, mais.
Il y a une case sur
parce que en fait t'as juste dit ça, les omissions c'est pas vraiment
des omissions, c'est pas un
mensonge. Est-ce que ne rien dire c'est mentir?
Alors il fallait que tu dises genre ah non, mais il y a ton poteau avant d'être bourré, il m'a mis une petite enveloppe, alors qu'est-ce que je fais, je vous la rends?
Ouais,
ça s'appelle une idiotie, ça.
Ouais,
c'est débile.
Ouais, t'as raison, ça, c'est vrai, c'est vrai, je suis pas mytho. Non, c'est vrai, je
crois. Si t'avais posé la question, allez où l'enveloppe, t'avais dit
ah oui, là, c'est vrai.
C'est mon pote qui est pas venu, qui l'a pris pour avoir avec lui. Bon, là ça c'est chelou, ça c'est bizarre.
Ça, c'est vrai.
Mais sinon, ça passe.
Moi, je me souviens d'un mytho que j'ai dû assumer à cause d'un pote. Parce que,
non, ça, c'est relou.
C'est les pires.
En fait, j'étais parti à Deauville en 2010. J'étais parti à Deauville avec un pote. Et on est à une soirée. Et, c'était l'époque où je commençais à faire de la photo. Et lui, je le vois, il parle avec une meuf et tout. Et en fait, il revient, il me dit, ouais, je parle avec une meuf et tout. Et je lui ai dit, t'étais photographe et que t'arrivais tout droit de Los Angeles et tout. C'est relou de raconter ça et tout. Il fait, mais non, elle croit qu'on vit à Los Angeles et que je suis ton agent et tout, tu vois. Je suis bon. Et du coup, on rencontre un gars ce soir-là, qui est devenu un pote après. Et du coup, on a traîné avec ce mec. On était tous les trois à Deauville pendant, genre deux semaines, tu vois. Ce mec s'appelait Sébastien. Et en gros, c'est un mec qui traversait une période où il était un peu déprimé, il s'énervait tout le temps et tout. Et chaque soir, il disait, les mecs, il y en a marre, on se casse à Los Angeles! Moi, j'étais là, non, mais je connais pas Los Angeles, moi, je veux pas là-bas et tout. Ah, et en fait, pendant toutes les vacances, on a dû gérer ce mytho de, on est photographe à Los Angeles.
Pas mal. C'était drôle. Mais genre, du coup, tu parles anglais ou pas? Non?
Non, mais du coup, il y avait cette phrase qui est devenue culte de, on se casse à Los Angeles! C'était drôle. Voilà.
Ah,
Amy.
Il y en a qu'un qui me vient en tête là, mais parce qu'il est un peu fat, mais du coup faudra peut-être le planquer à certaines personnes, ce podcast. Oh la vache, je crois pas que je raconte ça.
Oui.
Bon, normalement j'ai déjà raconté, donc ça va. C'est en 2017 ou 2018, je sais plus. Il y a la fondation Bill Gates qui fait tous les ans un goalkeepers.
Par contre, si t'as soutiré de l'argent à la fondation, c'est un peu c'est un peu relou quand même.
Je t'ai dit de peut-être censurer. Tu me demandes un mytho un peu fat, je te le dis. Non, enfin, on n'est pas dans la bonne case là. Mais donc il y a cet événement. Donc déjà, je me dis putain, c'est ouf. Ils me font venir à New York pour assister au Goalkeepers. Ils voulaient un peu ouvrir, je pense aussi, cet événement et cette fondation à la France, parce qu'elle est très peu connue en France, et aussi à la jeunesse, tu vois. Et il faut dire que il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent. C'était intelligent. Et du coup, je suis là-bas et j'arrive deux jours avant. J'arrive deux jours avant l'événement et je suis à New York pour la première fois, mec. C'est un truc de ouf pour moi. Mmh. C'est un truc de ouf. Moi, j'ai jamais voyagé avant de faire ce métier. Je voyageais sur Google Images, tu vois. Donc, je suis à New York, c'est l'éclate. Je fais du shopping, je vais là et tout, machin. Et en fait, je prends pas du tout en compte le jet lag et que je suis pas bien, tu vois. Et le lendemain, je me lève, je sens mon corps, il commence déjà à pas être bien. Il faut dire que c'est une période où je faisais beaucoup de déplacements de fuseau horaire en fuseau horaire. Donc en fait, je me suis pas rendu compte à quel point mon corps s'est pris une claque. Je rentrais de Thaïlande, je partais à Londres, après j'étais à New York, Las Vegas, et j'étais en train de crever en fait. Mais avec beaucoup de joie et de sérénité. Et bref, et le goalkeepers, du coup, t'es dans deux jours. Donc moi, je suis accompagnée par une manageuse qui est là pour m'aider sur place et tout, parce que me laissez pas toute seule là-dedans, sinon c'est la merde. Ils le savent, hein, c'est pour ça que je suis jamais toute seule. Et en fait, le jour, donc la veille, on a des ateliers hyper intéressants. Je rencontre plein de gens d'univers différents. Voilà, c'est hyper instructif en fait. C'est génial, tu vois. Et le lendemain, c'est l'événement. Donc c'est le moment où il faut être là et tout. T'as même les politiciens français qui sont là. C'est un énorme fat truc, tu vois. La sécurité autour, laisse tomber. Et moi, je suis là-bas pour faire des stories de l'événement et expliquer pourquoi, qu'est-ce que c'est, quoi. Donc vraiment, ma présence est obligatoire. Et là, le matin, le réveil sonne pour aller aux goalkeepers. Trop noir. Quand je te dis trop noir, c'est que je me lève pour aller pisser, vraiment, le pipi du matin. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai sûrement fait pipi, hein, mais je sais plus. Et en fait, j'ai fait un malaise dans cette chambre d'hôtel. Et là, alors là, la manageuse qui rentre et tout l'enfer.
Mais attends, à ce moment-là, il est quelle heure à ce moment-là?
Là, il est 7h du mat, tu vois. 7h du mat, je vais être à 9h là-bas.
D'accord.
Donc, je suis blanche comme un cul, laisse tomber. Je peux même pas marcher, j'ai les jambes qui tremblent et tout, c'est l'enfer. Ils me font venir un médecin sur place. Donc, ils me font venir le médecin de je sais pas qui. Hein. J'en ai eu pour $600. Un mec, il m'a fait une analyse d'urine dans ma chambre et tout, des malades. les fous. Le verdict tombe, j'ai 8 de tension, je peux pas être debout, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la fondation, ils sont comme ça. Oh là là, oh my god, what's happening? Et c'est l'enfer. Et moi, j'ai un stress pas possible parce qu'en plus, ils sont stressants, hein. Ah, ils ont ce don de te stresser, hein.
À l'Amérique. Bah, JB, il a vécu à Los Angeles.
Oui. Voilà, tu te rappelles quand même.
Mais écoute, je vais dire un truc. Moi qui étais photographe à Los Angeles.
Et voilà. Non, mais tu te rends compte.
Ah, mais ils sont très durs, là-bas, oui.
Non, mais il y a beaucoup de stress, quoi. Et ce qui se passe, c'est que, ils ont pas eu le choix et moi non plus. Ils ont pris mon compte Instagram et ils ont fait croire que j'étais à l'événement. Ils ont posté, ils ont fait les stories eux-mêmes. Et ils ont posté sur mon compte Instagram tout l'événement, quoi. Donc, en fait, officiellement, j'ai jamais été là-bas. Tout le monde pense que j'ai fait cet événement. Là, je me suis jamais pointée puisque j'étais au fond de mon lit avec un médecin à $600.
Ils faisaient les voix?
Non, ils ont été. Ouais, hey, this is Amy! Avec une voix de merde, comme ça.
C'est
que du texte, bizarrement. Ouais. Mais, ouais.
Et du coup,
voilà.
Est-ce que t'as reçu des messages sur Insta en DM de gens qui disaient, attends, ça sent
alors,
un peu
pour
le
coup, c'est tellement un truc qui m'a mis mal à l'aise. Que j'ai jamais osé regarder les réactions. Okay. Et mais par contre, c'est une histoire que j'ai racontée il y a pas si longtemps, mais par rapport à une anecdote où moi j'ai merdé parce que, en fait, j'aurais dû me reposer avant cet événement, mais ça s'est pas produit. parce que il y avait du shopping et il y a Central Perk, putain.
Ouais,
c'est quand même important. Et mais voilà, et on a prétendu que j'étais à cet événement, c'est terrible quand même.
Mais finalement, c'est marrant parce que ça ressemble un peu à l'histoire du film dont je parlais plus tôt, qui est Président d'un jour. Parce que finalement.
Je te remercie.
Non mais c'est vrai, en fait l'histoire de film, comme je disais tout à l'heure, c'est ils prennent un sosie et ils font croire qu'il vit un événement alors que la vraie personne est ailleurs, quoi. Ouais. C'est un peu la même chose.
En train de crever, voilà.
C'est un gros mytho, hein.
Ouais, c'est un mytho. Ouais, écoute,
moi j'essaie de vous impressionner. Ouais.
Ouais, mais pour le coup, c'est un mytho où t'avais pas le choix. On t'a soufflé ce mytho, du coup.
Oui, mais toi non plus, sinon t'aurais pas eu ton sandwich.
Ouais, c'est vrai.
Ça compte.
Aurélien.
Eh bien moi, une fois, j'ai dit que mon chien avait mangé mes devoirs.
Non, qui fait ce mytho-là? Ça marche pas.
Ça aurait dû rester là-dessus, c'était bien.
Ouais, non, mais c'est que j'avais pas vraiment de gros mythos.
Mais tu mens pas, t'es comme moi, on ment pas.
Non, c'est pas ça, mais moi par contre, j'avoue, je fais des trucs à la Big Fish. C'est-à-dire que, il se passe des histoires.
Ah oui.
Et je vais les raconter d'une façon où on a l'impression qu'il s'est passé des trucs de fou. Je vais pas faire non plus genre, j'ai pêché un
méga mytho, en fait.
Non, parce que.
C'est un méga mytho, c'est ça que tu nous expliques.
Non, c'est toujours vrai. En fait, je t'expliquais le truc. Pendant très longtemps, j'étais dans des équipes où tout le monde était un peu à boire, à fumer, à faire des trucs un peu fous. Et j'étais le seul qui était frais et sain du début à la fin de la nuit, voire le lendemain, en fait. Donc j'étais le seul qui pouvait raconter les histoires. Mmh. Donc en fait, je racontais ce que je voulais, tu vois. Les mecs, ils s'en rappelaient pas. La plupart du temps, ils s'en rappelaient pas, ou ils en avaient une vision qui était chacun dans leur prisme, tu vois. Donc, j'étais celui qui racontait les histoires du groupe, un peu, tu vois. Et en plus, vu que j'avais une bonne mémoire, que j'aimais bien raconter des histoires, des fois, forcément, j'enjolivais des trucs. Franchement, il y avait un truc genre, hey, le verre, il est tombé, il a fait plof. Bon, l'histoire, tu la racontes comme ça, elle est nulle. Mais si tu la racontes avec genre, t'es en train de faire un grand geste, son verre, il est tombé, il en a foutu plein sur son fût,
ouais,
il est obligé de se changer,
hein.
Il est foutu en short. Non, tu peux
pas. Mais
on voit ce qu'il veut dire.
En fait, ça dépend de ton regard, tu vois. C'est pour ça que Big Fish, je trouve ça intéressant, c'est que des fois, un bon mytho, c'est juste une bonne façon de raconter l'histoire.
C'est vrai.
Les faits, des fois, c'est les mêmes, en fait.
De toute façon, plus tu racontes un souvenir, plus tu l'enjolives, de toute façon.
Parce que tu t'en rappelles jamais plus. Moi, là, je commence à être vieux. Enfin, franchement, hein, je commence à me dire que des fois, je sais plus si c'est des vrais souvenirs ou si c'est le nombre de fois que je les ai racontés.
Tu sais, les premiers mythos que tu racontes, c'est moi, je me souviens de mythos vraiment petits, où quand t'arrives à l'école primaire, tu sais, ils te font, vous avez regardé le film hier?
Ouais.
Et tu fais,
ouais.
Tu l'as trop pas vu. T'sais, genre, tes parents, ils te couchent à 20h et t'es là, eh, grave.
Ouais.
Et en fait, pas du tout. Ça, c'était les premiers mythos.
Ah, c'est vrai.
T'es là, ouais, la fin et tout, ouais, je vois trop. En fait, tu sais pas de quoi ça parle.
Ah, ça m'en fait toujours un peu, c'est vrai.
Alors Aurélien, t'as raison de relier tout ça à Big Fish, parce que dans Big Fish, on retrouve un duo solide, Tim Burton et Helena Bonham Carter. Deux personnes fidèles dans le travail, qui ont donc très souvent collaboré ensemble. Et des duos qu'on retrouve souvent au cinéma, il y en a pas mal.
C'est vrai, très souvent les réalisateurs ont des acteurs ou des actrices fétiches et aiment bien travailler avec, soit comme une sorte de porte-bonheur, ou alors juste parce que leur travail est exceptionnel et ils vont choisir un acteur et ils vont leur faire faire des milliers de rôles. J'ai un petit jeu pour vous. J'ai d'abord focalisé sur les plus grosses collaborations entre acteurs, actrices et réalisateurs. Je vais vous donner un chiffre de nombre de réalisations et vous allez essayer de me trouver qui ça peut être. Le premier, c'est 21. 21 films où ces deux personnes ont collaboré. C'est fat, hein, 21 quand
c'est
même.
C'est énorme.
Ouais.
21.
Non, j'allais dire Scorsese et DiCaprio, mais non, moins, je pense.
Ouais, ouais.
Comédien et réel, hein. Comédien
ouais,
réel.
Ouais, ouais. C'est un acteur.
J'en ai un.
C'est un acteur avec
Est-ce
un réalisateur.
Que, okay. Siegel et Clint Eastwood.
Non, pas tant, pas tant.
Non, pas tant.
Mais on est sur le genre de personnage un peu comme ça.
Ok.
Ah ouais?
Ouais.
Bruce Lee?
Non.
On est John Wayne et...
Qui? T'as dit quoi?
John Wayne.
C'est vrai.
Et... Ah bah c'est Ford.
Exactement. John Wayne et John Ford ont fait 21 films ensemble, donc beaucoup de western bien sûr, mais à mon la de mes recherches, c'est la plus grosse collaboration entre un réalisateur et un acteur. Ils étaient vraiment faits pour être ensemble quoi.
Trop
ils
bien.
Ont fait hyper mignon. Des,
21, c'est fou.
Sachant que bon, ils ont quand même fait que des films très réac hein, la plupart du temps, mais ça veut dire qu'ils s'entendaient bien dans la réactitude quand même. c'est pas mal. Deuxième chiffre, le chiffre 16. On change de pays complètement.
France?
Non.
Italie? Ça peut être très long. Angleterre.
Non, 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 on est carrément sur, quand je dis un autre pays, un autre continent, carrément.
Ah, le Japon?
Oui.
Ouais, Japon.
Ouais. Je suis en train de me dire.
Bon, Kurosawa.
Exactement.
Ouais.
Avec.
Akira Kurosawa a fait, attends, j'ai pas envie de me tromper dans le truc. Akira Kurosawa a fait 16 films avec Toshiro Mifune.
Ok.
C'est-à-dire une grande partie de sa filmo, il y a Toshiro Mifune dedans.
Impossible que je te sorte le nom de Toshiro Mifune.
Je l'aurais jamais vu si j'avais pas cherché.
Si, c'est mais alors
là, là, ça va être, oui, bien sûr.
Je l'aurais jamais vu.
De toute façon, il y a quasiment tous les films. Tu sors tous les films de Toshiro Mifune.
Je vois très bien
ça. Ouais, il est dedans. Ouais. Ouais.
Bah ouais.
Pas de suite, et hein. Alors, j'ai un deuxième chiffre, 15, et c'est pareil. Là, je pense que vous ne trouvez pas, et c'est encore un autre pays. Mais c'est juste, c'est énorme, tu vois, 15 films.
15 films, ouais. C'est l'Espagne.
Non,
évidemment.
Pas du tout. Moi, je vous aide, c'est l'Inde. Et là, j'arriverai jamais à dire.
Satya Jitray.
Et voilà. Toi, tu connais. Wow. Toi, t'as une vraie culture.
Il est chaud, JB.
Avec Soumitra Chatterjee. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont fait des films ensemble de 1959 à 1990. 15 films.
Putain.
Ça veut dire qu'en gros, pendant 30 ans, ils ont bossé ensemble. C'est fou quand même, en vrai. Tu vois, parce qu'il y a un moment où tu peux être saoulé quand même.
Ouais.
Ou te dire, bah, je sais pas, où il y a une histoire, tu te dis, bah, là, quand même, je sais pas, c'est le rôle d'un enfant, peut-être que c'est chelou qui le joue.
Après,
bah,
quand
si,
tu trouves ton binôme, artistique, hein. Quand ça marche, c'est ça vrai, peut être un kiff aussi.
Genre, j'imagine que t'en as peut-être parlé dans ta chronique, mais en parlant de filiation réalisateur-enfant, il y a aussi Truffaut et
Jean-Pierre Léo.
Et Jean-Pierre Léo.
Ah ouais. Ouais. Bah, j'en parle pas, donc c'est bien que t'en parles maintenant.
Ah bah voilà.
Parce qu'il y en a plein en vrai, mais je reste dans les plus hautes, et là on est sur 13. 13 et on parle de films d'horreur.
Wes Craven?
Non.
Non?
Plus vieux.
Carpenter?
Encore plus vieux.
Un film d'horreur.
Anglais.
Film d'horreur anglais, réalisateur anglais, tu veux dire?
Ouais, tout anglais.
Tout anglais.
Les anglais, mecs de là-bas.
Qu'est-ce que je connais en anglais? Mr Bean.
Moi, je crois anglais.
Qu'est-ce que j'ai dans ma
Moi, je suis un
caboche.
Peu spectatrice. Ça, moi, je prends des infos là. Qu'est-ce que je
Non, c'est on parle de La Hammer avec Terence Fisher qui est donc le réalisateur quasiment principal de La Hammer avec Peter Cushing. Ils ont fait 13 films ensemble et avec Christopher Lee aussi, ils en ont fait 13. Donc comme ça, il a fait même truc. Ouais. Voilà, exactement. Là, on arrive dans les 10, et dans les 10, j'en ai un en américain et un français.
Bon, bah,
ça m'arrange de les mettre en face à face, en 10.
Français, alors est-ce qu'il n'y a pas Belmondo ou Delon? Delon,
non.
J'imagine?
J'avoue, j'ai pas tout vérifié, mais Delon, je crois que Belmondo, il en a 8 avec Henri Verneuil.
Ouais.
Ah oui. Delon, je suis pas sûr, parce que il y a
Gabin.
Delon, il y a Visconti. Mais... Delon, il y a Verneuil aussi, je crois.
Peut-être, ouais. Mais il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 10, c'est sûr. 10 en France, je crois que c'est quasiment unique.
Gabin, Jean Gabin?
Ça va vous faire gueulerie. Non.
Est-ce qu'il n'y a pas Audiard dans le lot?
Non.
Je sais pas.
Ah, c'est Louis de Funès?
En français, non. Ça aurait
Louis de Funès et Jean Giraud?
Ça aurait pu, Jean Giraud et Louis de Funès, j'avoue. Mais là, j'en ai trouvé un autre. J'ai pas vérifié, ça se trouve, il y en a 10. Hein. Mais il y en a un autre qui est sûr et certain, c'est Jean-Marie Poiret et Christian Clavier.
Ah bah, ah bah ouais.
Oui, 10 films, il y a déjà 4 visiteurs.
C'est fou, ouais.
Et il a tout depuis Le Père Noël est une ordure jusqu'à là. Donc il a 10 films ensemble.
Mais pareil, Clavier a aussi beaucoup bossé avec Lecomte. Parce que outre Les Bronzés, il y a aussi d'autres films qu'il a fait avec lui.
Tout à fait. Mais 10, c'est fat. Hein. Et sinon, c'est Martin Scorsese avec Robert De Niro. Non, DiCaprio, ils en ont fait que 6.
C'est pas mal.
Ils en ont fait que 6, arrête.
Alors que De Niro, ils en ont fait 10 quand même. C'est fat. Hein. C'est pareil, c'est sur plusieurs décennies, donc c'est assez énorme. Ensuite, dernière, je la mettais en 9, mais là, je vais vous aider pourquoi ce chiffre. C'est, à votre avis, qui est l'acteur qui a le plus tourné avec Spike Lee? C'est 9 films.
Denzel. C'est pas le principal du coup. Si tu te présentes comme ça, c'est que c'est un personnage qui est toujours là quand même, qui fait des petites apparitions.
Pendant le film.
C'est pas Denzel.
Spike Lee, ce n'est pas Denzel, mais garde Denzel parce qu'il va me servir pour plus tard. C'était fait exprès.
Danny Aiello, non?
Non, on le retrouve que dans The Right Thing, je crois, mais c'est une bonne piste.
Ah, Turturro.
Exactement, John Turturro est l'acteur qui a le plus joué avec Spike Lee, 9 fois, souvent dans des petits rôles, mais ils sont potes depuis toujours. Et en fait, Spike Lee l'a quand même beaucoup aidé sur Do the Right Thing, et inversement, ils se sont donné pas mal de coups de main. Mais c'était intéressant que tu parles de Denzel Washington, parce que justement, on va retourner le jeu. Et là, est-ce que vous savez avec quel réalisateur Denzel Washington a tourné le plus de films?
Tony Scott.
Exact.
Wow,
c'est fort.
Là,
mais c'est vraiment, tu dis c'est Spike Lee.
T'es un spécialiste du cinéma ou quoi?
Ouais. Tony
c'est
Scott.
Lui qui a fait halluciner.
Tony Scott a donc fait 5 films avec Denzel Washington. Et vu qu'on parle de Tony, passons sur son frère Ridley. Et à votre avis, quel est l'acteur qui a le plus tourné avec Ridley Scott?
C'est Russell Crowe, c'est trop.
Russell Crowe avec 5 films.
Dont un avec Didier Bourdon.
C'est vrai.
C'est
quoi? Ah ouais, le truc du vin.
Le film sur le vin. Ouais. Didier Bourdon.
Ah, je crois que tu faisais une vanne.
Non, c'est vrai. Là, Didier Bourdon a joué sous la direction de Ridley Scott.
Mais quoi? Où ça?
C'est un film incroyable sur le vin.
Ouais, un film sur le vin.
Ah, c'est vrai.
Avec Russell Crowe, d'ailleurs.
C'est dingue. Ouais.
Ridley Scott est
J'oublie
très fan
le titre
de la
du film, d'ailleurs, mais
Une année exceptionnelle.
Ah, peut-être, ouais.
Une année.
J'oublie le titre.
Je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc sur les années dans le vin.
Ok.
Film que je n'ai pas vu, d'ailleurs.
D'accord. Bah, Bourdon, on l'aime bien.
C'est pas ouf.
Et d'ailleurs, Bourdon aime à la rappeler en interview. Et à sa place, bon, bah, j'aurais envie aussi de le faire. Bah, oui. J'ai joué sous la direction de Ridley Scott. Voilà.
Avec Russell Crowe.
Mais il a raison, attends.
Bah oui, il a raison.
Ce serait mon papier peint dans mes toilettes, moi. Attends, t'es ouf.
Et donc, pour continuer le petit jeu, Russell Crowe joue dans A Beautiful Mind de Ron Howard.
Ouais.
Et Ron Howard,
Tom Hanks.
À votre avis? Et ouais, combien de films? Combien de films?
Il attend même plus la question. Il fait
Apollo
même plus
l'effort. Apollo 13, il a fait quoi d'autre avec Tom
Scott,
Hanks? Oui, exact.
Il y en a combien pour le coup, les
Da Vinci Code? Il y en a 3-4, non?
Il y en a 3. Il y a Inferno, il y a Angers Démons, il y a Da Vinci Code.
Voilà, c'est 3, okay. Plus
Apollo
13.
Attends, Ron Howard, je suis en train de faire sa film où il y a Willow.
Il n'a pas fait Extrêmement Proche, Incroyablement Près, c'est pas lui?
Non.
Merde.
Ron Howard, il vous reste un film. Il y a 5 films pour le coup, il en reste
un.
Ah, mais si je l'ai, c'est Splash.
Et voilà, c'est vraiment un spécialiste de Tom Hanks.
C'est son gars.
Donc Ron Howard, 5 films, mais si on reste sur Tom Hanks, il a aussi un autre réalisateur fétiche avec qui il a énormément travaillé.
Tu parles de Tom Hanks, toi?
Ouais.
Ok, pardon.
Un autre réalisateur.
Spielberg.
Avec... Ouais, combien de films?
4-5.
4.
Oh là là, vous êtes loin du compte.
6.
Il faut sauver le soldat Ryan, Pentagon Paper.
Terminal.
Terminal, bravo. Arrête-moi si tu peux.
Ouais.
Quoi d'autre, Tom Hanks?
Le Pont des Espions.
Le Pont des Espions, bravo. Ouais. Il en reste combien?
Bah, il y avait 7, je crois que vous en avez eu 5 là, je pense qu'il en reste 2, mais j'ai pas la liste devant moi. Et en plus, ça va à 9 si on compte ses productions. C'est vraiment son acteur.
Ouais. Ah si, Band of Brothers en production avec lui.
Ouais, c'est vrai.
Turner et
co-réalisé. C'était aussi lui qui... c'était Spielberg qui produisait La Baraque à tout casser.
Ah bah ouais. Et aussi Les Banlieusards qui est réalisé par Joe Dante.
Voilà. Donc en fait Tom Hanks et Spielberg, c'est sûrement j'avais lu un article où il disait carrément que c'était même la collaboration la plus bankable de l'histoire, vu que Tom Hanks c'est genre l'acteur qui fait le plus de thunes au box office, et Spielberg aussi de leur côté. Donc quand ils font un film ensemble, il y a toutes les chances pour que ce soit un film qui marche, en tout cas, même si c'est pas un grand classique. Si on reste sur Spielberg, rappelez-vous, Max von Sydow a joué dans Minority Report.
Ouais.
Et là, c'est une question uniquement pour JB, qui est le réalisateur qui a bossé le plus avec Max von Sydow.
Bergman?
Eh ouais, combien de films?
J'irais 3-4.
Mais puisse.
Eh ben non, on est sur 12 fois quand même.
Ah, 12 fois quand même.
C'est l'acteur fétiche de Ingmar Bergman, Max von Sydow. Et alors là, j'en ai juste quelques petites qu'on est obligé d'évoquer, surtout dans cette émission. Si je vous parle de James Cameron, à votre avis, qui est...
Ah bah, je dirais Michael Biehn.
J'aurais dit Sigourney Weaver.
On n'est pas sur cela.
Moi, j'aurais dit Michael Biehn et celui qui est mort et que j'adore. Putain, comment il s'appelle? Je l'adore, ce type, qui a joué dans Predator 2, qui a joué dans Aliens. Tu sais que c'est lui, Aurélien.
Attends, tu cherches qui, là?
Putain, j'ai un trou de mémoire, c'est un truc de ouf.
C'est un Bill.
Je l'adore. Bill Paxton.
Eh voilà, bah oui, Bill Paxton. Bill Paxton joue dans 5 films.
Moi, je suis ce gars, moi. Je suis ce mec, ah ouais.
Je l'adore.
Bill Paxton joue dans 5 films de James Cameron. Donc, dans
Titanic.
Terminator, dans Aliens. Il joue aussi dans Titanic.
Attends, c'est lequel dans Titanic? Je vois même pas qui c'est.
Au début, dans le futur, c'est le type qui est sur le bateau et qui est à la base de la recherche pour retrouver l'émeraude.
Ah oui, d'accord.
Pour le coup, il joue aussi dans Ghost of Abyss.
Dans True Lies.
Et dans True Lies.
Ouais.
C'est lui, ça. Le pote.
Bah, écoute,
de...
j'aurais appris un truc, je connaissais.
Donc voilà, c'est lui qui a le plus.
Et j'adore Bill Paxton. Et Bill Paxton présente la particularité d'être le seul acteur à avoir joué dans un des trois grands films de science-fiction qui sont Terminator, Alien et Predator.
Exact.
Il peut se targuer d'avoir joué dans ces trois films, ça.
C'est fou, hein. Ouais. Alors que les gens l'oublient très souvent. Et donc, dans Titanic, il y a Kate Winslet. Kate Winslet qui joue dans La vie de Zissou, la fameuse, c'est comment, La vie aquatique, non?
Ouais.
C'est ça? Donc, Wes Anderson, je suis parti en Suisse.
La vie de Zissou.
Non, qu'est-ce que tu racontes?
Zissou, c'est The Life of Zissou, non? Dans l'américain, je crois.
Ouais.
The Life Aquatique, bref. Zissou, vous m'avez compris. Wes Anderson, bien sûr, a ses acteurs favoris,
oui.
Ses acteurs fétiches.
Oui. Je vois très bien.
Je pense à Jason Schwartzman.
Je pense à, comment il s'appelle, le blond, là, avec sa fossette, là.
Ah oui, c'est, oui, il a raison,
Val
il a raison.
Val Kilmer, non.
Non. Non, non, il a raison, c'est,
comment il s'appelle, ce blond, là.
Anderson, Owen Wilson.
Owen Wilson.
Owen Wilson a en effet 7 films, dont le prochain.
C'est vrai
mais
qu'il
y en a un.
Mais il y a Jason Schwartzman.
Non, Jason Schwartzman, il y en a 5.
Mais c'est Bill Murray.
Ah, c'est déjà pas mal, non,
ça. Et voilà, Bill Murray, ouais, Bill Murray dans quasiment bravo. Tous les films de, Wes Anderson. Je crois qu'il en a juste rasté un, son tout premier, Bottle, quelque chose dont je me souviens plus parce que j'ai pas mes notes.
Et c'est marrant, mais parce que d'ailleurs, on pourrait penser que Bill Murray a fait énormément de films avec Sofia Coppola. Or, il y en a que deux. Ouais. Il y a cette, tu vois, c'est un peu une idée reçue. On a l'impression que Bill Murray joue souvent avec Coppola, mais en fait, non, il y en a
pas tant,
deux.
Non.
Il y en avait un avant le dernier qui vient de sortir.
C'est Kristen Dirks, par contre, qui a joué dans 5 films de Sofia Coppola.
Ouais.
En tout.
Kirsten.
J'arrive jamais à parler. Et sinon, bah, Kate Winslet a donc joué dans Neverland avec Johnny Depp. Et comme ça, on fait une boucle.
Tim Burton.
Et on est sur combien de films?
Et on va tous les citer.
Depuis Johnny Depp et Tim Burton.
Tu peux les citer, Amy.
C'est une spécialiste de Tim Burton. On l'attend là-dessus.
Allez.
Bon, je te dis, il y en a 8.
Il y en a 8.
Ouais, faut en trouver 5. 5 et c'est,
ok. Piolo, Edouard Roman d'Argent, il y a Dark Shadows.
Pirates des Caraïbes. Bon, ça va, c'est un.
Il est pas dans, non, il est pas dans les Batman.
On en est à 3.
Attends. Forcément, moi, vous me mettez la pression. Donc, là, je vais prendre mon temps, sachez-le.
Il y a pas de pression,
hein.
Je vais faire une petite.
Plus vous faites ça, plus je vais prendre mon temps.
Il y a Guillaume qui compte à côté.
Il est pas dans Big Eyes, non? Il est pas là-dedans.
Non, je crois pas.
Il est pas dans Big Eyes. Attends, pourquoi j'ai que ça?
Est-ce qu'il est dans Les Noces Funèbres en mode voix off?
Oui.
On a dit quoi, là? Non, mais on dit pas, on dit ceux où il est à l'écran.
Non, non, bah, la totale, les collaborations avec.
On a dit quoi?
Attends,
déjà?
On a dit Sleepy Hollow, on a dit Edouard Romain d'Argent, on a dit
Charlie,
Charlie et la chocolaterie, oui, pardon. On a dit Les Noces Funèbres, du coup, la voix.
Sweeney Todd.
On a dit Dark Shadows, Sweeney Todd. Il nous en manque deux.
Ah, il
c'est
en manque
quoi?
Deux.
Attends, putain, qu'est-ce qu'il nous manque là?
Si vous avez Charlie, vous avez l'autre.
C'est-à-dire
Charlie et chocolaterie et.
Attends, je suis une merde. Je me sens hyper mal là. Attends.
Oui, il joue plus ou moins le même rôle, mais dans un autre.
Ah, comment ça s'appelle?
Bah, Alice au pays des
merveilles. Ah, bah, putain, le chapelier. Ah oui, bah, tu mets les deux dedans, tu mets au-delà du miroir et. C'est un seul?
Oui.
Ok. Donc, il nous en manque un.
Oui, je pense.
Il nous en manque un. Non, il dit Sweeney Todd. On l'a dit.
On l'a dit.
Sweeney Todd, vous l'avez dit?
Ouais.
Vous avez 8 là, non?
Ah, bah, voilà.
Ah, ok.
Je pense, hein.
Bah, bravo.
J'avoue, j'ai plus la liste là.
Moi, je marche pas du tout sous la pression, faut me prendre avec tout ça.
Je vois.
Bravo.
Voilà, bah on est revenu à Tim Burton et puis voilà.
C'est fou.
Et bien,
tu sais,
bravo.
Tu veux une info rigolote? Parce que du coup, j'ai regardé un peu.
Personne
tout à
dit non à ça. En général, on veut des infos rigolotes.
Moi, si tu m'avais dit non, j'aurais ri et j'aurais pas dit.
Moi, je préfère une info un peu bon.
Mais toi, tu parlais de réel tout à l'heure. Je voulais pas te couper et tout, mais j'ai appris un truc que je savais pas du tout. C'était Spielberg qui devait faire Big Fish à la base.
Et ouais.
Mais écoute, ça c'est une merveilleuse transition parce que
c'est ouf,
ma première
c'est
info.
C'est vrai. Oh merde, j'ai niqué ton truc.
C'est une très bonne transition encore une fois. Mais bah du coup c'est toi qui vas nous raconter cette anecdote.
Écoute, non, je l'ai pas, hein. C'est non mais je sais que c'était Spielberg qui avait été choisi par la prod à la base pour adapter le livre, que c'était Jack Nicholson qui devait être le premier rôle. J'ai
non, mais
tué
c'est
là,
ça.
C'est ça.
Regarde, je veux dire ce que j'avais écrit. Enfin la suite c'était Guillaume, Amy et Aurélien. Est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes sur Big Fish.
Oui.
Et là on dit déjà c'est croustillant ce que tu dis.
Si tu veux je te dis tout croustillant et tu finis.
Bah c'est croustillant. Et là ce que tu viens de dire c'est exactement ce que j'avais écrit. Première info, figurez-vous qu'à la base, c'était Steven Spielberg qui était censé réaliser ce film. Il avait même choisi Jack Nicholson pour le rôle-titre.
Ouais.
Mais sais-tu maintenant pourquoi il ne l'a pas fait, finalement?
En fait, il a refusé pour un autre film,
exactement,
Jack Nicholson.
Exactement, un film dont on a parlé dans cette émission.
Attends, j'ai oublié.
Minority Report. Non, arrête-moi si tu peux.
Ah, exactement.
Ouais,
arrête-moi si tu peux.
D'ailleurs, des bons petits mythos. Il aimait bien les mythos à cette époque-là.
C'est vrai, c'était une époque de mythos pour lui. Mais donc, finalement, il abandonna l'idée pour pouvoir tourner Arrête-moi si tu peux, qui, lui... devait être réalisé par Corey Verbinski. On parlait de Pirates des Caraïbes
Voilà. C'est fou, hein.
C'était croustillant, Émilie, ton info.
Bah, avec plaisir. Est-ce que tu vas donner l'info que je t'ai donnée en off par, sur Insta?
Attends, c'était laquelle déjà?
Je t'ai envoyé un truc et tu m'as dit ah ouais, t'es une vraie fan, t'étais un peu dédaigneux.
Sur Big Fish.
T'es un peu dédaigneux.
Les petits clins d'œil du film.
M'étonne pas de ça.
Je m'en rappelle plus. Alors dis-moi, parce que je m'en rappelle
pas. Tu te rappelles plus?
Non.
Oh putain, où t'as fait semblant d'être étonné. En fait, c'est une info de merde.
Je m'en rappelle plus.
Ça se trouve, c'est une info de merde, mais je trouvais ça hyper stylé. Vous savez qu'il y avait un clin d'œil pour Fight Club dans.
Ah bah, je l'ai pas cette info. Bah tiens, tu peux nous la raconter.
Non.
Et ça,
en fait, mais tu sais que je l'ai vu 1000 fois et j'ai réalisé à la dernière fois que je l'ai vu, c'est-à-dire il y a une semaine, quand vous vous rappelez bien du film ou pas?
Ouais, je l'ai vu hier.
Ok, bon, très bien. Tu vois quand ils sont gosses et qu'ils vont voir la méchante sorcière?
Oui.
Ils sont devant et tout. Et en fait, la petite fille, elle se retourne vers le petit et elle lui dit, non, n'y va pas parce qu'elle va te transformer en savon. Elle transforme toujours les gens en savon. Et je fais, attends, ouais. C'est bizarre qu'elle dise ça. Et parce que c'est la traduction parfaite en anglais aussi. Ouais. Et en fait, c'est un clin d'œil qu'il a fait à Helena Bonham Carter parce que c'est elle, la sorcière.
Et ouais.
Et il a fait un clin d'œil à Fight Club. Je trouvais ça hyper marrant.
C'est très bonne anecdote.
Alors, je dis un truc. On a l'habitude d'écouter ici des infos tabziennes. Est-ce que les gars, vous trouvez ça croustillant comme info?
Franchement, bravo. Bonne info. Non, vraiment.
C'est très tabzien. En même temps.
Très tabzien.
Je suis d'autant fière que...
d'être dans cette liste.
Oui, c'est vrai.
Toi, je suis d'autant fière que j'ai réalisé tout seul et après j'ai confirmé. Donc j'étais là genre, oh yes. Bon, j'ai mis 150 fois avant de m'en rendre compte. Après 150
chose.
Visionnages, mais je l'ai eu.
Cette info, elle méritait pas ton dédain sur Insta. Voilà ce que j'en pense.
Surtout que je n'ai eu aucun dédain en plus.
C'est ok, super.
Ah ouais, t'es une vraie fan.
Bah, j'ai justement retrouvé la conversation. J'ai la conversation Insta. Avec Amy, et ma réponse était, je trouve cette info formidable peut-être l'une des meilleures infos que j'ai écoutées dans ma vie.
Et ensuite, il m'a dit.
Je vois pas où j'ai été dédaigneux dans ma réponse.
Et ensuite, il m'a dit, va voir ma dernière vidéo YouTube.
Très bien. Alors, si l'acteur Albert Finney a été choisi pour incarner le personnage d'Evan McGregor vieux, c'est parce que les producteurs sont tombés sur des photos de lui lorsqu'il était jeune où il ressemblait à Evan McGregor. Et c'est vrai que sur certaines photos, il y a quand même une ressemblance. Tapez sur Google Images Albert Finney jeune et vous verrez qu'il ressemble pas mal à Evan McGregor. Et pour ceux qui ne connaissaient pas bien cet acteur, je vous conseille le film Voyage à deux lequel il partage la vedette avec Audrey Hepburn. Magnifique film de 1967 réalisé par Stanley Donen. Alors quand on regarde Big Fish, on pourrait penser que le personnage donc de Albert Finney est de prime abord comme ça pas très accueillant physiquement, enfin, ou, ouais. Mais quand on le voit jeune.
Ouais, c'est un truc de fou.
Il a un charisme et une beauté qui est folle, quoi.
Magnifique.
Je conseille vraiment ce film de. Stanley. Avec Albert Finney.
Mais tu vois, c'est marrant, moi je trouve qu'il a un physique rassurant.
Ouais, c'est vrai.
Il a un physique rassurant, c'est le papy qui est il te rassure, quoi.
C'est vrai.
Mais il joue aussi d'ailleurs dans Snatch et il est pas rassurant du tout, par contre.
Non, dans Snatch, non. Marion Cotillard, qui joue dans le film, a toujours été très fan de Tim Burton, si bien que durant un mois, elle a dormi avec le script sous son oreiller afin de le lire et de le relire dans l'idée de bien se préparer pour le casting. Surtout que c'était là son premier film américain. Voilà.
Ah ouais, c'est fou.
Donc c'est ce qui s'est passé avec
Burton.
On peut vérifier cette info ou comment tu le sais en fait?
C'est un interview de Marion Cotillard et c'est elle qui l'a précisé. Je suis journaliste, Guillaume.
Ah, très bien. Très bien,
juste pour savoir.
Mytho, journaliste à Los Angeles.
Voilà, on a dû faire ça. Est-ce que les anecdotes sont mytho ou pas mytho?
Ce film est également un film très personnel pour Tim Burton, qui venait de perdre son père juste avant le tournage. Père qui, comme le personnage qu'on voit dans le film, était mourant durant des semaines, et c'est une des raisons pour lesquelles Tim Burton a accepté de tourner ce film.
Il a perdu sa mère en presque.
Exactement,
en même temps, en
aussi. Sa mère aussi.
Terrible.
À un moment dans le film, il y a une séquence durant laquelle Evan McGregor saute en parachute avant d'atterrir sur une scène. Et sur cette scène, il y a un ventriloque. Est-ce que vous en souvenez?
Ouais.
Eh bien, la marionnette qu'il utilise a été conservée par Tim Burton et placée chez lui dans son salon. Voilà.
Flippant.
Il doit avoir amusé des horreurs.
Ouais, je pense que chez lui, c'est pas très rassurant, chez Tim Burton.
Ah, c'est clair.
Au début du film, on apprend que le couple interprété par Marion Cotillard et Billy Crudup, j'ai jamais su comment on a
Moi, je dis Crudup. Tu Crudup, dis Crudup, toi?
Moi, je dis Crudup.
Ouais. Viens, on fait un mix, on dit Crudup.
Crudup, ouais. Mais je crois que c'est ça, en plus. Ça doit être Crudup en américain.
Crudup.
Donc oui, le couple Marion Cotillard, Billy Crudup dans le film vit à Paris. Et si on est attentif, on peut lire leur adresse sur une enveloppe. Mmh. L'adresse étant 2 avenue Gabriel dans le 8e arrondissement. Et c'est pas anodin, tout ça.
Ça existe pas?
Si. Ça existe.
Ah ouais?
Pourquoi ils ont choisi le 2 avenue Gabriel dans le 8e?
C'est leur adresse à eux ou c'est l'adresse de la Wii Boss?
C'est censé être leur adresse où ils vivent dans le film. L'adresse de leur appartement.
C'est une poissonnerie?
Non, pas du tout. Il n'y a aucun rapport,
Guillaume. Ah, putain, j'ai trouvé ça drôle.
Mais
oui,
si,
c'est vrai, t'as raison. Ah oui,
c'est vrai. Après, il n'y a aucun poissonnerie.
Aucun rapport, Guillaume.
J'ai été très dédaigneux. J'étais très dédaigneux, c'est vrai.
C'est une poissonnerie.
Il est dédaigneux, c'est ce que
oh
je
dis. Oh là là.
Mais non, mais faut que ce soit mais quand vous connaîtrez la réponse, c'est un truc quand même qui est plus glorieux qu'une poissonnerie, quand même.
Gabriel, c'est lié.
2 avenue Gabriel dans le 8e.
Un aquarium.
ah, ça aurait été plus ambitieux, ça.
Un truc du Trocadéro, là.
Pourquoi pas?
Non, c'est pas ça. Non, en fait, faut pas rester sur le poisson, ça n'a rien à voir.
Ah oui.
Est-ce que c'est lié à l'œuvre littéraire?
Non.
Non.
C'est le musée de Tussaud là où.
Non, je vais dire parce que c'est compliqué. C'est tout simplement l'ambassade américaine.
Ah ok.
C'est l'adresse de l'ambassade américaine.
Voilà. Adresse,
franchement, j'aurais préféré un aquarium.
Bah oui, ça aurait été tout sympa. Bah oui, t'as
raison. Ils ont dit il y a plein de débiles, ils vont envoyer des lettres, donc au moins que ça arrive à l'ambassade américaine.
Ouais, c'est vrai. figurez-vous que Miley Cyrus joue dans le film.
Quoi?
Eh ouais, c'est croustillant ça, Aurélien.
Ah ouais, j'aime bien.
Miley Cyrus joue dans le film, elle joue une figurante enfant. Voilà, à l'époque où elle n'était pas du tout connue. Oh. Elle est figurante sur le film.
Où c'est
Cyrus.
Où? Dans le cirque? C'est dans le cirque, non?
Pas dans le cirque.
Bah, dans le cirque?
Bah, il y a beaucoup d'enfants, je
crois. C'est quand Evan McGregor est enfant. C'est une scène quand il est enfant.
Ah, mais ça se trouve, c'est la petite devant la maison de la sorcière?
Peut-être. Je sais pas.
Non? Bah, je vais regarder, du coup.
En vrai, je suis pas journaliste, du coup, j'ai pas l'info supplémentaire.
Aïe.
Mais moi, j'étais venu pour ça. Enfin, il y a un journaliste, je vais y aller.
Ah, celle-là va te régaler, Amy, figure-toi.
Ah, j'adore.
Tim Burton fait un caméo dans le film puisqu'il est grimé en clown dans une scène avec Danny DeVito.
Ah bah dans le cirque, ouais, dans le frère.
Voilà, exactement. Et il s'est déguisé en clown et c'est Tim Burton sous
le crâne. Ok.
Et enfin, pour terminer, il y a dans ce film une ville appelée Spectre qui est censée être la ville la plus sympathique de la planète. Les décors de cette petite ville ont été créés sur une île en Alabama spécialement pour le film puis laissés à l'abandon. Cette île appartient à un couple aujourd'hui et pour 3 dollars seulement, on peut embarquer sur un canot et visiter cette ville fantôme en décomposition.
Wow.
Le genre d'info que l'on retrouve dans un nouveau format de vidéo que l'on peut retrouver sur la chaîne
Action
de
Clic.
Format
pirouette, ça, la
format qui s'intitule Split. Voilà, c'est un nouveau format qui est sur la chaîne Action de Clic.
Bravo.
Petit autre promo, c'est toujours un plaisir, hein, n'est-ce pas?
Tu fais bien.
Et c'était la dernière anecdote. Ouais. Amy, tu les as trouvées croustillantes?
Mais c'est fou. Non, mais en plus, Spectre, du coup, parce que, ouais, il m'a envoyé son lien en disant, je rigole, il m'a dit pas pour ma dernière vidéo. Non, oui, tu vas passer tes vacances. Que,
si je lui ai dit, va voir ma dernière vidéo, c'était pas genre, venu de nulle part, genre, va voir ma dernière vidéo.
Là, j'ai tapé, là, où il faut, là.
Non, parce que dans cette dernière vidéo, justement, je parle de Spectre, et comme elle est fan de Big Fish, je lui dis, va regarder ça, et ça te donnera envie de partir en vacances là-bas.
Non, mais c'est fou, c'est vrai, c'est trop génial. Parce que moi, je fais une petite aparté sur ta vidéo, je trouvais ça incroyable, parce que t'as qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. En fait, et c'est tellement logique, tu te dis, évidemment, ça coûte tellement cher de défaire les décors, laisse-les, mais c'est magique, c'est incroyable.
C'est intéressant ce que tu dis parce que sous cette vidéo, justement, j'ai été assez surpris de retrouver plusieurs commentaires de gens qui ont dit c'est une honte, c'est de la pollution, etc. C'est marrant parce que moi, je n'y ai pas du tout pensé.
Non, moi non plus.
Je n'y ai pas du tout pensé parce qu'il y a tellement de choses qui sont abandonnées, des lotis ou des véhicules qui sont abandonnés sur la planète que bon, c'est un décor de plus et surtout, c'est un décor qui fait rêver les gens parce que les gens y vont, tu vois ce que tu disais juste et moi j'adorais justement aller voir un décor abandonné où il y a dans la vidéo je parle d'une scène dans le fugitif ce film avec Tommy Jones et Harrison Ford.
Ah ouais,
il y a une évasion qui est assez spectaculaire, en gros un bus de prisonniers qui est percuté par un train en marche. Ils ont refait cette scène pour le film et ils ont laissé le train, les bus de prisonniers percutés, tout sur place dans une forêt en fait. Et moi, par exemple, je me dis, si je suis un méga fan du Fugitif, c'est fou d'aller voir ça, quoi. Donc, je trouve ça cool.
Et non, mais l'anecdote que tu racontes qui est folle, c'est la lune noire de Star Wars.
Ah ouais.
Ah, c'est fou.
Ça, c'est bon. On peut pas raconter. Allez voir la vidéo.
Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir, mais il y a une anecdote sur l'étoile de la mort.
Elle a été vraiment maltraitée. Ouais. Je suis pas respecté.
Mais je trouve que c'est un truc qui est réel. Tu vois, moi, par exemple, je vais en Écosse tous les ans. Tu vois, bon, bah, pas cette année, du coup, mais.
Je rêve d'aller en Écosse, figure-toi.
Je t'en supplie, vas-y.
Mais pour faire un truc très cliché, allez voir le lac du Loch Ness.
Oui, tu vas être très déçu.
Ah ouais, d'accord.
Mais je vais te faire un plan.
Okay,
ah ben, enfin, j'y vais tous les ans. Hein. Je fais un road trip tous les ans en Écosse. C'est un truc traditionnel. C'est là-bas que je finirai mes jours d'ailleurs. Mais tu vois, c'est très marrant. Mais à chaque fois, je m'arrête à Glenfinnan. Glenfinnan est une ville pas loin de Fort Williams où en fait il y a le pont sur lequel passe le Polar Express. Et tu as aussi en fait c'est là où tu as le lac où l'hippogriffe vole. Et ben pourtant il y a rien qui a été construit là. Mais je peux t'assurer.
Harry Potter, toi.
Moi je suis ultra fan. Ouais, regarde, c'est marqué là.
Ah oui, le petit tatouage Harry Potter et tout. Okay.
C'est marqué là. Mais c'est vrai que c'est un endroit que je trouve. Il y a un côté en fait. Pardon, je vais me faire taper dessus, mais c'est pas grave. Il y a un côté religieux aussi.
Personne ne doit. Tu peux la taper, Aurélien, s'il te plaît. Parce que j'ai pas supporté ce qu'elle vient de dire.
Non mais tu sais, c'est un truc. Enfin, moi je me suis beaucoup échappée par le cinéma. Ça m'a fait énormément de bien et de pouvoir me retrouver dans un endroit qui s'apprête à un lieu qui m'a fait rêver, bah, je suis désolée, mais c'est un truc qui touche en fait au spirituel pour moi.
C'est vrai. Et donc l'Écosse, en partie à cause d'Harry Potter ou pas du tout?
Non, pas du tout. Enfin, pour plein de choses, pour Highlander aussi. Mais t'as Highland Donan Castle là-bas.
Ah, c'est vrai.
Et là-bas,
vrai.
Le château. Et en fait,
tu disais, parce que justement, en off, je disais qu'aujourd'hui, je portais le trench de Lambert dans Highlander.
J'ai rien dit, j'ai préparé ça.
Ouais, bravo.
Non, mais c'est pour la petite anecdote, parce que mon père me montrait beaucoup Braveheart.
En tout cas, son père lui a montré des bons films. Entre True Lies, Highlander et Braveheart.
Il y en a qui vont à Berck pour Bienvenue chez les Ch'tis, elle va en Écosse.
Mais ça a été son cadeau de ses 50 ans, et depuis, on y va tous les ans. ensemble. C'est la tradition avec papa.
Cool. Trop bien.
Ouais. Est-ce que t'as déjà vu le film Under the Skin avec Scarlett Johansson?
Mais ça me dit un truc, ça.
Bah, je te le conseille parce qu'il se déroule en Écosse et c'est une Écosse qui est très bien filmée, une Écosse un peu poisseuse, un peu déprimante.
Et... Ouais, pas celle que je connais, du coup. Vraiment pas celle que je connais. Hein.
Mais non, mais une Écosse vraiment profonde et tout, et c'est un super film.
Bah, regarde Perfect Sense.
C'est quoi Perfect,
Perfect Sense avec Evan McGregor et Eva Green.
Ah, okay,
c'est une épidémie en plein Glasgow qui prive les gens de leur sens petit à petit. Mmh. C'est génial.
Okay. Que des films feel good.
Oh, tu me laisses déprimer tranquille, oui, ou merde. Il fout ce type.
Cette émission n'est pas tout à fait terminée puisqu'il nous reste la séquence du dernier et de la dernière. Amy, je vais te poser quelques questions et tu vas nous dire ce que tu as culturellement consommé dernièrement. Est-ce que tu es prête? Je te vois prendre ton téléphone entre tes mains parce qu'il faut savoir que je t'ai quand même posé des questions.
Oui, j'ai pris des notes
en amont.
Pour pas oublier.
Bah oui. Le dernier film que tu as vu au cinéma?
Eh ben en fait, j'ai pas eu besoin de chercher longtemps parce que c'était net en fait. Tenet entre la pause, entre deux confinements.
Pareil.
C'était net.
Je crois que c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma également. Ah non, je sais pas.
Moi, j'ai revu des trucs depuis.
Ouais, je crois qu'on aussi.
Moi, c'est La Grande Vadrouille.
Il a 1000 ans.
Il a 50 ans. Il a pas été au cinéma depuis.
Et alors, Tenet?
Tenet, écoute, alors attention parce que j'ai peur de dire cette phrase que j'ai peur qu'après on me piège. Mais pour le coup, je m'attendais à me prendre la tête à mort et en fait, je me suis dit, bah c'est pas si compliqué. Il y a plein de trucs
allez,
sur
non
lesquels. Non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une logique qui est assez logique en fait. Après, effectivement, il y a plein de trucs sur la physique quantique et tout. Je me suis pas attardée là-dessus, mais je me suis laissée porter à mort par le film et ça ne m'a absolument pas gênée dans la compréhension. Je suis pas sortie larguée du tout.
On est d'accord.
Alors.
Ah, cool. Je sais jamais s'il est sérieux ou s'il se moque.
On a reçu dernièrement Flore Maquin dans ce podcast et elle nous disait que le dernier film qu'elle avait vu au cinéma c'était également Tenet. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens, leur dernier film, c'est Tenet.
Ben oui, parce que c'était le seul événement. Ouais. Tout le monde avait peur d'aller au cinéma, mais il y a que Nolan pour motiver les gens à quand même aller voir le film. Faut être sincère.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin de tout comprendre pour kiffer ce film, en fait.
Exactement.
Non, pas du tout. Voilà. Et même, franchement, je suis pas sortie en me disant, j'ai rien compris au film. Pas du tout. Pour moi, c'était clair. Mais demande-moi en profondeur, la physique quantique, comment ça marche et tout, je vais avoir des lacunes, c'est certain.
Non, parce que ce que je trouve formidable avec Tenet, c'est qu'il y a quand même, et j'utilise les guillemets, on voit pas là parce que c'est audio, des critiques ciné YouTube qui étaient là, genre, c'est de la merde, c'est nul, machin.
Ah
tout.
Bon?
Comment on peut dire Tenet, c'est de la merde.
Ah non, visuellement, c'est une prouesse.
On se le répète souvent avec Guillaume, mais comment on peut dire ça?
Non, c'est pas que toi, ce que tu dis là. Non, mais c'est clair, on est d'accord.
Non, c'est une honte, franchement.
On est encore une fois d'accord.
Visuellement, je me suis pris une sacrée claque.
Bah oui, oui,
le tronçon d'autoroute.
Tu l'as vu en IMAX ou pas?
Non.
Alors imagine.
Comment on réalise ce film, par exemple? Si demain tu dis, bon, écoute,
c'est exactement
je
que
te laisse les clés de ce film. Allez, c'est parti, Guillaume, c'est ton air. Tu vas réaliser Tenet. Je serai là, voilà, ça va être beaucoup moins bien.
Les combats entre deux mecs qui sont dans deux énergies différentes, un mec qui se bat à l'envers, un mec qui se bat à l'endroit, mais c'est incroyable.
Surtout qu'en plus, j'ai vu un making-of où ils faisaient des répétitions où ils se battaient à l'envers, ils apprenaient à se battre à l'envers.
Oui, parce qu'ils l'ont vraiment fait cette scène comme ça. Je me suis dit, attends, c'est pas possible, ils ont retourné l'image. Que dalle. En fait, ils ont fait des cascades à l'envers, quoi. C'est ouf.
Non, c'est fou. Amy, le dernier film que tu as vu via une plateforme?
Mais en fait, je l'ai un peu acheté, peut-être.
Ah, ça compte, c'est de la VOD.
Ça compte. Ouais. Wonder.
Wonder. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer
C'est un petit garçon.
Ouais.
Moi, enfin, quand ça touche les enfants et tout, qui sont un peu différents, moi, ça, tu m'as tout de suite, même si c'est de la merde, après, je suis quand même là, genre, c'est un chef d'œuvre. c'est un petit garçon qui est joué par Jacob Tremblay. Et c'est vraiment le fils que je vais sûrement kidnapper, puisque je veux cet enfant. Il est absolument extraordinaire. Et en fait, qui naît avec une difformité et qui subit pas mal d'opérations au visage.
Je vois ce film.
Et sa mère,
oui,
qui est Julia Roberts, c'est Owen Wilson. Et sa mère n'est pas Owen Wilson,
exact.
C'est un couple. Et en fait, elle décide de le mettre à l'école pour la première fois. Et en fait, Wonder, bah, c'est l'histoire de ce petit garçon qui est wonderful, en fait. Et qui va se confronter au monde pour la première fois. Et c'est terriblement beau.
Alors, il y a un film, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il s'appelle Mask, de Peter Bogdanovich, avec...
Oh, tu me sors toujours des trous, je me sens comme une merde après.
Non, pas du tout, mais qui est avec Eric Stoltz, crois. Je sais pas si Aurélien, t'as déjà vu ce film. Et en gros, c'est un peu la même histoire, c'est un enfant, je crois que c'est une histoire vraie, qui a une difformité faciale très rare. Et qui a une tête de lion, je crois que c'est ça la maladie.
Je pense que c'est pas une adaptation, mais ça doit être la même chose.
Oui, bah,
c'est peut-être une œuvre littéraire à la base.
C'est pour ça que je dis ça, est-ce que c'est pas un remake ou quoi? Parce que
peut-être, hein.
Il l'envoie à l'école pour la première fois et du coup, il doit subir le regard des autres.
C'est le même genre de visage en plus.
Hein?
C'est le même genre de visage.
Ah, ok, peut-être que c'est la même chose.
Ah, c'est peut-être ça. Je me suis pas du tout renseignée. Je l'ai regardé parce que j'avais vu la bande-annonce et je me suis dit, oh là là, ça a l'air d'être bien. Et effectivement, c'était bien.
Très bien. La dernière série que tu as regardée?
La Révolution.
La Révolution. Attends,
sur Netflix, c'est la dernière série française, une production Netflix originale.
Avec les sangs bleus.
Écoute, ouais, ben j'étais agréablement surprise en fait. Il y a plein de trucs où je me suis dit oh bof, mais en vrai, ça fait du bien de voir une série française qui ose. Okay. Et là, pour le coup, enfin, tu regardes la réal, elle est champ max. La scène d'intro de la série. Je te laisse juste regarder la scène de départ, tu fais « Ok, c'est Game of Thrones ».
Tu me laisses regarder le reste un peu ou...
Non, parce que tu me diras de regarder une de tes vidéos de ta chaîne entre les deux. Non, mais c'est, je trouve que c'était ambitieux et je trouve ça cool que Netflix ait donné la chance de faire un truc qui nous permet d'aller au-delà maintenant. Parce qu'il est temps d'aller au-delà en France, je pense.
La dernière chanson que tu as écoutée.
Écoute, tu sais, bah ça, c'était marrant parce que c'est grâce à toi. Parce que j'écris en ce moment, je suis sur un bouquin et j'écris en musique. Moi, j'ai toujours fait ça. Et en fait, je cherchais parce que moi, j'écoute beaucoup Danny Elfman. Et parce que voilà, Danny Elfman, quoi. Et en fait, t'as fait une story et je me suis dit, ok, putain, je vais tenter celle-là pour changer de celle des d'or au moins d'argent. Et du coup, j'ai écouté Will & Tell Me.
Donc, oui, parce que dernièrement, j'avais fait une story où, en gros, je mettais une chanson de, enfin, un titre composé par Elfman pour Will Hunting. Et je disais que c'était le genre de chanson qui est très rassurante.
Et c'est vrai.
Et ça.
Et très, 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 très inspirante à l'écriture, en tout cas.
Très bien. Du coup, donc, tu écoutes cette BO en ce moment?
Bah, Dani, je l'écoute tout le temps, en vrai. J'ai là ma playlist Dani Elfman.
Tu l'appelles Dani, quoi. C'est ton pote.
Eh ben, vous voulez, vous parliez des mythos? C'est mon père. Voilà. Il est temps de dire les choses.
Voilà. Le dernier livre que tu as lu?
C'est un auteur qui s'appelle, alors c'était cet été, parce que j'avoue que depuis, j'ai survolé plein de livres, mais je les ai pas lus en entier, et c'est Nicolas Beuglé. C'est un écrivain français, c'est un ancien journaliste, je crois. Il a fait une série, les policiers, en fait, les bouquins, j'aime assez bien. Et ça s'appelle Le Cri du Diable. Et en fait, d'accord, c'est une trilogie. Et c'est très sympa.
Et je trouve que c'est bien, c'est écrit et tout.
Tu suis une flic sur plusieurs enquêtes. En fait, je vais confondre les histoires parce que comme c'est une trilogie, j'ai peur de te dire. Mais Le Cri du Diable, celle où j'ai terminé, elle est liée à quelque chose. Elle, dans son passé, un truc un peu cool. T'as une île en fait où t'as une société qui. Oh, je veux pas te dire parce d'accord, que vraiment, j'ai peur de te cacher le plaisir. Mais c'est bien et moi j'aime bien les ambiances qui démarrent dans des trucs un peu brumeux et tout. Je suis très 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 feel good.
Spectre. La dernière BD que tu as lue.
Ça s'appelle Blue.
D'accord.
Ce qui est marrant parce que en plus j'ai appelé un truc. Bon, bref, ça s'appelle Blue et en fait j'ai juste trouvé le nom cool. C'est bien que vraiment j'ai appelé moi, j'ai appris mon prochain film comme ça. Du coup je me suis dit, oh, c'est peut-être pareil, pas du tout, ça n'a rien à voir. Et c'est en fait j'ai trouvé le concept hyper cool. C'est le tome 2, donc j'ai commencé par le tome 2, donc j'ai rien compris, mais je me suis laissé porter par les images et les couleurs. Je suis très très fan d'illustration.
Et alors c'est quoi l'ambiance alors?
Eh ben écoute, c'est dans Sad City. C'est la ville de la tristesse. Rien que pour ça, j'ai trouvé ça.
Arrête, j'ose plus parler
avec lui.
T'aimes bien bader.
Non, mais faut dire que moi, j'ai envie de contrer cette idée qu'on a de la mélancolie, comme si c'était quelque chose de condamnable. Alors que la mélancolie est inspirante et la mélancolie permet de créer une immensité de choses. Et faut pas avoir peur de ça, en fait.
Je suis d'accord avec toi. Tu sais, avec Guillaume, on a une expression qui est entre nous, qui est tête contre la vitre. Et quand on déprime, on se dit, est-ce que t'as la tête contre la vitre?
Mais d'ailleurs, on parlait des films déprimants, tu vois. Et ben en fait, quand t'es en déprime, tu peux pas regarder. Enfin, tu peux regarder un film joyeux pour sortir de la déprime, mais tu peux pas écouter de musique joyeuse.
Non, ça fait chier. Ça fait chier. Oui.
Jamais de ta vie, tu vas écouter du ska ou t'es. C'est pas possible. Déjà, jamais de ta vie, tu vas écouter du ska.
Par exemple.
Mais. Tu vois, t'es dans une ambiance. Ah, je vais mettre un bon Radiohead. Ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? C'était ma petite intervention.
Elle était bien.
Le dernier objet culturel que tu as acheté.
Oh écoute, j'ai fait un craquage chez Disney Store. Hein.
C'était ah ouais.
Ouais.
T'as acheté quoi là-bas?
Bah écoute, non mais je me suis refait plein de parce que ouais, je sors un dessin animé le 19 là. Je suis en folie, c'est la première fois que je fais un film animé, un court-métrage animé. Du coup, je suis dans ma folie où j'ai plus envie de voir de films, mais je veux que voir des dessins qui s'animent. Donc
j'ai vu dernièrement en story que tu regardais Peter Pan.
Ouais. Mais c'était parce que j'ai bref, OK. On s'en fout. Mais s'en fout, mais parce que moi c'est mon cerveau, genre une histoire m'en amène à une autre et c'est terrible, sinon on va jamais se coucher. Mais c'était quoi la question? Oui, Disney. Et du coup j'ai acheté un carnet trop beau, c'est un carnet avec une quatrième de couverture, vraiment non, première de couverture, vraiment dorée avec plein d'éléments et tout. Sleeping Beauty, en fait ils ont fait une gamme de papeterie des carnets et moi je suis très fan de carnets, super beau, et j'ai pris un mug avec.
Très bien. Voilà.
Très bien.
Et enfin, pour terminer.
Quel niveau le mug? Enfin, quel, y a quoi dessus?
Écoute, c'est un groupe WhatsApp des méchants. Ah! Et je trouvais ça très, très drôle.
C'est
marrant,
ça.
Et enfin, pour terminer, le dernier ou la dernière artiste que tu as scrollé sur Insta.
Ah, tu me l'avais pas envoyé, celle-là. Merde.
T'es en galère, hein.
Ah merde, ouais, ouais.
Ou alors une artiste comme ça que t'as l'habitude de scroller sur Insta ou que tu suis.
Bah, il y a son père Dani quand même déjà.
Bah ouais, oui, puis il adore Instagram. Attends, laisse-moi une seconde. Florence Foresti.
Florence Foresti, ouais.
Non, mais pour de vrai, je la trouve hilarante. Moi, je suis très fan de Florence Foresti. Je trouve qu'elle a un bagou, elle a un charisme de malade. Elle défonce Florence Foresti, quoi.
Très bien. Ce podcast est désormais terminé, malheureusement. Oh. Amy, c'était cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu? Alors, tu en as un peu parlé juste avant, ouais. Mais est-ce que tu peux synthétiser ça, du coup?
Bah déjà, merci de m'avoir invité, je passe un trop cool moment. Cool. Ça fait du bien pendant ce confinement de voir des humains. Et des humains sympas et de parler de trucs sympas. Écoute, comme je t'ai dit, là, je suis trop contente. Le 19, je sors Billy, qui est mon premier court-métrage animé. Donc, moi, j'ai écrit, j'ai prêté ma voix, je l'ai produit, mais je suis pas à la réalisation. Hein, vaut mieux pas pour vous que je dessine. Mais... Et je suis en préparation de mon film de Noël qui va s'appeler Blue, qui est l'histoire d'une jeune femme qui subit un traumatisme et qui va se reconstruire grâce à l'aide d'un chien.
Alors, film, court-métrage,
très bien.
Et donc, qui sort quand alors?
Lui, il va sortir le 20 décembre normalement.
Très bien.
Voilà.
Quelle est la race du chien?
Pardon?
Quelle est la race du chien?
Qu'est-ce qu'il veut?
Dans Blue.
C'est un staffy.
Voilà, c'est une petite anecdote. Voilà.
Est-ce qu'on est déjà un staffy?
Un staffy, tu sais, c'est les petits chiens trop mignons avec la grande tronche qui font peur et qui en fait sont les chiens les plus adorables du monde,
entier
et de l'univers.
Bravo, pour
très bien. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Entre-temps, on va traîner sur l'outil Cinémature que vous pouvez retrouver sur le site de Wheel of Cinema et on va trouver un film qui sera le sujet du prochain podcast. À bientôt tout le monde. Bye.
Ciao.
Salut.